Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, on s'aventure dans le royaume quantique qui nous transportera à une époque bien avant l'existence d'Iron Man et de Spider-Man. Nous serons les témoins privilégiés de tous les premiers exploits héroïques du leader incontesté des Avengers, le Capitaine America. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Chers auditeurs et auditrices, juste avant de commencer à vous introduire le film dont on va discuter aujourd'hui, j'ai une annonce importante à vous faire. Puisque ça fait maintenant un peu plus qu'une quinzaine de mois que j'investis beaucoup de mon temps et de mes énergies pour faire rouler ce podcast à fond de train pour vous procurer aussi souvent que possible de nouveaux épisodes, j'ai décidé de m'auto-féliciter de tout le travail accompli en m'offrant des vacances pour profiter de l'été au maximum. Donc, tel un jeune écolier friand de retourner en classe, sans commentaire ou presque, sera de retour au mois de septembre pour débuter ce qu'on pourrait appeler la phase 2. En effet, une petite variation du concept du podcast va vous être proposée pour rafraîchir la teneur des discussions que j'aurai avec mes futurs invités. En parlant d'eux, sachez que vous pourrez entendre un mélange bien réparti d'anciens invités qui reviendront pour une deuxième ou même une troisième fois derrière mes micros, ainsi que de gens dont ce sera une première visite mémorable à ce podcast. Vous en saurez plus sur qui ils seront et de quels films ils viendront vous parler dès la fin de l'été. D'ici là, que diriez-vous si on terminait la première phase de 100 commentaires ou presque en beauté? Il y a maintenant un peu plus de 10 ans qu'a commencé l'univers cinématographique de Marvel. 23 films plus tard, cette compilation interconnectée de longs métrages de super-héros est devenue un phénomène incomparable dans la culture populaire actuelle. D'autres studios ont essayé de répliquer la même formule avec leurs propres héros masqués, mais les mêmes succès critiques et commerciaux que la bande à Stan Lee ont été bien loin d'être au rendez-vous. Pendant que les films Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home font présentement des ravages au box-office, mon invité et moi allons visiter en votre compagnie un des premiers films basés sur l'un des héros qui est considéré comme une des pierres d'assises importantes de cet univers cinématographique. Le Capitaine America fait ses débuts dans le cinéma du 21e siècle avec un long métrage conçu sur mesure pour le concept de notre podcast. Débordant de qualité indéniable et saupoudré d'imperfections discutables de tout genre, il est un sujet de discussion parfait à passer au peigne fin et à utiliser comme porte d'entrée pour aborder les nombreuses connexions qu'il lie aux autres films dans lesquels apparaît ce héros vêtu de bleu-blanc-rouge. Et si jamais vous faites partie de ces snobs qui en ont rien à battre des films de Marvel, je suis prêt à parier ce que vous voudrez qu'après avoir entendu les propos passionnés de mon invité, vous vous surprendrez à vouloir satisfaire votre curiosité en allant découvrir par vous-même les liens entre les personnages et les histoires contenues dans tous ces films. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez écouter et télécharger gratuitement tous nos précédents épisodes sur SoundCloud, Réseau et Balado Québec. Vous avez juste à écrire le nom du podcast dans le moteur de recherche et ça vous amènera à la liste de nos épisodes. Ce sera idéal pour que vous puissiez les revisiter pendant tout l'été en prévision des nouveaux qui s'en viennent. Je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook du podcast au facebook.com/podcastscop pour connaître avant tout le monde un tas de nouvelles sur les nouveaux épisodes à venir. N'hésitez pas à partager le podcast auprès des gens qui vous entourent. C'est maintenant le moment de débuter notre épisode d'aujourd'hui. Le film Captain America, The First Avenger. L'année 2011. Réalisé par Joe Johnston et mettant en vedette Chris Evans, qui se glisse sans complexe dans le costume d'un des super-héros les plus célèbres de la culture populaire. Hugo Weaving, l'acteur parfait pour se glisser sous le maquillage complexe d'un des plus mémorables vilains de bande dessinée. Hayley Atwell, idéal pour incarner à l'écran l'un des meilleurs personnages féminins de l'univers de Marvel. Et Tommy Lee Jones, dans la peau d'un personnage tellement bourreux et désagréable qu'on a l'impression qu'il se joue lui-même. On est de retour, chers auditeurs, et moi et mon invité, on est carrément prêts à casser la glace. Oui, casser la glace qui retient Captain America captif depuis des années, alors on va le libérer. Qui est mon invité? Eh bien, je vais vous le présenter immédiatement. C'est un gars que j'ai connu au début des années 2000, quand j'ai commencé mes études en cinéma au Collège Annecy, quelques-unes des plus belles années de ma vie. C'était un gars tout à fait charmant. J'ai découvert que c'était un très grand fan de bande dessinée, quand même assez récemment, alors je me suis dit que c'était le gars idéal à amener avec moi pour qu'on puisse discuter de films de super-héros ensemble cet après-midi. Alors, je vous le présente, mon grand ami Philippe Derry. Philippe, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour, monsieur. Oui, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation.
Eh bien, merci de l'avoir accepté premièrement. Puis, ben, je dois dire que t'es vraiment la personne qui a décidé du film qu'on allait parler aujourd'hui, Captain America The First Avenger. Si tu le permets, je vais raconter à nos auditeurs un petit peu les circonstances qui ont amené à ce qu'on se rencontre cet après-midi pour discuter du film. C'est très, très amusant. Il y a quelques mois de ça, bon, je pense que c'était un soir parce que j'avais mis sur les réseaux sociaux du podcast la sortie du plus récent épisode. Tout va bien et là, je reçois un message sur Facebook Messenger qui dit « Seb, la prochaine fois que tu fais une émission, là, faut que tu parles d'un film de super-héros, faut que tu m'invites. » Ok, Phil, oui, ça va bien, super cool. « Seb, les films de super-héros puis les bandes dessinées, c'est toute ma jeunesse. C'est toute ma jeunesse. » Tabar slack, Phil, c'est quoi que t'as pris à soir? Là, je suis en train de te réécrire, je t'écris genre, ok, de quoi est-ce qu'on pourrait parler comme film de super-héros qui a des bons côtés puis des aspects un peu plus discutables pour avoir une vraie belle conversation comme on en a toujours à mon podcast. Puis là, moi, j'étais sûr que t'allais me sortir les classiques genre Iron Man 2 ou Thor 2, tu sais, les films de Marvel, tu sais, qui ont une opinion un peu moins bonne dans le public en général. Puis là, t'es arrivé avec la perle, t'as sorti du tac au tac Captain America The First Avenger
oui,
de 2011. Puis là, dans ma tête, ça a fait « Mais quelle idée brillante !» Parce que, bon, ce film-là, quand je l'ai vu à sa sortie, j'ai trouvé qu'il avait effectivement des bons côtés et des côtés extrêmement discutables et qui rendent le film ben peut-être un peu plus raboteux qu'il aurait dû être. Alors, là, j'ai gardé l'idée en tête, puis enfin, c'est le moment d'en parler avec toi.
Ce que je voulais faire avant tout, c'est surtout de redonner les lettres de noblesse à ce film-là, qui a été assez mal accueilli à sa sortie, même par les fans, même par... surtout par la critique, mais les fans, ça m'a surpris parce que vraiment les éléments sont là où ce qu'on voit vraiment l'histoire de l'origine du Captain America le plus quasiment fidèlement possible recréé qu'on avait vu dans l'histoire dans les BD. Puis je trouvais ça plate. Puis même encore aujourd'hui, sa cote IMDb m'exaspère avec son 6.9 sur 10. J'espère qu'on va pouvoir faire mieux apprécier ce film aux gens qui vont écouter ton podcast.
C'est notre mission aujourd'hui. C'est-tu quoi? Je pense qu'on a tous les éléments en main pour y arriver. Mais juste avant qu'on rentre littéralement dans le vif du sujet, moi j'ai quelques questions de préparation à te demander.
Oui.
En premier, avant qu'on parle du film, moi il faut vraiment que tu me parles un petit peu de à quand remontent tes premières lectures de BD de Marvel. C'était à quel âge? Puis c'était quoi les titres principaux, admettons?
Ben, disons que j'ai toujours baigné dans ce qui est l'univers Marvel. Même dans ma jeunesse, je faisais pas vraiment la distinction. Je baignais aussi dans le DC Comics. J'avais pas mal les deux. J'avais des livres de Marvel pis de DC à la maison avant même que je sache lire. Je ne voyais que les images. Mes parents me bourraient de trucs de super-héros. Ça m'a suivi. Éventuellement, j'ai commencé à lire. Je me suis intéressé directement tout de suite aux héros que j'avais déjà vus puis qui m'avaient interpellé par leur look, par leur pouvoir, comme j'ai tout de suite rentré avec Captain America, les Quatre Fantastiques, ce qui était quand même plus facile d'accès. En grandissant, il y a eu beaucoup de comic book stores qui ont commencé à éclore. Ça arrive sur de Montréal où j'ai grandi. Puis là, j'ai pu vraiment découvrir la panoplie Marvel au complet. Tomber en amour avec les X-Men, tout ce qui est l'univers X-Men, ensuite les X-Force avec Cable, tout ça, j'ai vraiment mangé ça tout. Je dirais jusqu'à environ l'âge de 19 ans, où malheureusement, une inondation à la maison familiale m'a fait perdre toute ma collection de comic books. Ouais, j'en avais des centaines, ça amène pas de bon sens comment j'en avais. Puis j'ai carrément arrêté pendant un long moment à en acheter, en consommer, peut-être par frustration,
je
ne sais pas.
C'était ça un deuil, c'est ça, quelque chose
comme ça? C'était un deuil à faire, vraiment un deuil à faire, parce que certaines de ces revues-là, je les lisais encore plusieurs fois par mois. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au MCU, pour les films, pour ce que Marvel vient de faire là, je m'y suis pris sur le tard. Quand j'ai appris que la saga des Infinity Gems allait se faire, je sais que c'est récent, mais c'est là, moi, qui m'a donné le goût, parce que c'était mes BD fétiches, les 6 Infinity Gauntlets, c'était vraiment mes BD fétiches. Je voulais voir comment qu'elle allait transposer ça. Fait que d'une traite, je me suis tapé les 14 films dans le temps qu'il y avait de Marvel un après l'autre. Puis j'ai tombé en amour avec l'univers MCU par la suite. C'est pas un complément aux BD, c'est vraiment une entité à part des BD où ce que certaines histoires sont manipulées, mais comme on disait, plutôt pour le greater good, l'œuvre en général qu'on voit vraiment là, les 23 films en 10 ans, c'est vraiment extraordinaire.
Tout un exploit, c'est ça. Puis ça a vraiment fait connaître aux gens, aux néophytes, qui sont ces personnages-là, puis le potentiel un peu d'une série qu'on suit au long terme pour voir après ça tous ces éléments-là s'interpénétrer, exactement comme une bande dessinée,
exact,
vers un but ultime où chacun de ces personnages-là va jouer son propre rôle vers ultimement la réussite de la mission et la défaite du vilain.
vilain et tout ça. Oui. Donc, c'est très, très bien fait. C'est vraiment une bande dessinée cinématographique pour le plus grand des plaisirs de tout le monde. Mais ce qui est drôle, c'est que, ben, pour faire rebondir sur ce que je viens de dire, c'est ça, moi, de mon côté, mes premières lectures de bande dessinée, je suis pas vraiment un gars de Marvel côté bande dessinée. Marvel, j'ai vraiment découvert ça autour de 2008 avec les films, justement, du MCU. Tu sais, je connaissais, oui, bien sûr, les grandes lignes de Captain America, d'Iron Man, qui pour moi était juste un ivrogne, avec des problèmes d'alcoolisme, puis une couple d'affaires de même. Hulk, que j'aimais beaucoup, effectivement, à cette époque-là aussi, que j'avais lu quelques BD. Mais au niveau de Marvel, quand j'étais plus jeune, j'ai lu que quelques Spider-Man, puis c'est à peu près tout. Peut-être parce que Marvel, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression de trouver ça un petit peu intimidant. Je sais pas où partir, parce qu'il y a trop de choix, puis j'avoue avoir de la misère à décider sur quoi j'ai envie de mettre mon focus. J'ai plus été dans ma vie, même encore de nos jours, un gars de DC, où est-ce que les personnages, Flash, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, je sais pas, ils ont un plus grand attrait pour moi, parce que je sais que pour le DC, il y a beaucoup de reboots qui se font à intervalles réguliers, donc c'est pas, on passe pas genre 5-10 ans sur une série, un peu comme Marvel le fait, tandis qu'avec DC, bon, les reboots ont lieu normalement genre en un moins long délai, puis tu peux quand même repartir sur une nouvelle run sans être trop perdu ou avoir besoin d'amasser de l'information pour comprendre tous les éléments de la bande dessinée que je suis en train de lire ou quelque chose du genre, un petit peu comme j'ai le sentiment que Marvel fait. Alors c'est pour ça que je préfère en rester simple avec vraiment des héros qui me parlent un petit peu plus à la DC Comics. Mais c'est pas impossible que dans quelques années, ben, je décide d'enlever les œillères et de tout simplement me tourner vers du Marvel. Alors mais, écoute, je te demanderai que c'est un petit peu de guidance là-dedans.
Il y a pas de problème, c'est juste de... C'est la grosse différence, comme je dis tout le temps entre les deux, c'est que d'ici, ce qui est bien, c'est que c'est un monde complètement inventé, complètement imagé, avec des villes qui sortent de l'imaginaire littéralement, tandis que l'univers Marvel est dans la réalité. Une réalité un peu tronçonnée, c'est sûr, avec des gens qui ont des pouvoirs, ou avec une évolution humaine aussi, avec les mutants et tout, mais on demeure à New York. On voit dans certains X-Men, même Wolverine, on est au Québec, des fois dans la forêt laurentienne, pour voir l'origine de certains de ces super-héros-là. Fait que c'est vraiment la réalité, je suis un petit peu plus proche, j'aime un peu trop le réalisme, comme si j'aime mes super-héros sérieux, comme Captain America. C'est pour ça que j'ai un peu plus de difficultés avec d'autres trucs comme Deadpool, que c'est un peu trop pour moi. J'apprécie quand même, mais j'aime mon super-héros sérieux.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est exact. Ça qui est merveilleux. Tout le monde peut y trouver son compte et être amateur de la même chose, tout simplement. Parlant de Captain America, The First Avenger, me raconterais-tu la première fois où tu l'as vu? C'était-tu au cinéma?
Non, c'est vraiment dans le confort de chez moi. Je me suis dit, je vais lui donner la chance. Il venait de sortir en DVD. C'est l'année qu'il est sorti, donc il a dû sortir en DVD en 2012 probablement, étant donné que le film est sorti en cinéma en 2011. Je fais partie de ceux qui l'ont pas aimé dès le départ. Peut-être trop d'attente, mais ce qu'on va voir là, c'est vraiment dans les premières images du film où ce que j'ai décroché littéralement. Puis j'avais même pas fini le film, pour être franc. Puis c'est quelques années plus tard que je me suis redonné la peine de le réécouter. Puis que là, j'ai passé par-dessus le truc qui me gossait un peu plus. J'ai foncé jusque dans le milieu du film, fin du film. J'ai mangé le film au complet. Puis j'ai enfin compris, OK, c'est vraiment, d'après moi, le film d'origine le plus intéressant. Je sais que la plupart des gens vont dire qu'Iron Man, vu que c'est le premier film du MCU et tout, mais il y a pas autant d'éléments qui montre l'avenir qui va arriver dans l'MCU que dans le film d'origine de Captain America.
Bien d'accord avec toi, donc c'est une belle histoire de rédemption que t'as eue.
Oui.
Moi c'est drôle, j'ai eu exactement la même réaction quand j'ai vu ce film-là, c'était en 2011, quelques semaines après sa sortie, je me souviens, c'était le jour de ma fête, 20 juillet 2011, et je m'étais prévu en soirée avec un tas d'amis, un barbecue chez nous, dans la grosse terrasse, c'était super cool, sauf qu'en après-midi, pour faire passer le temps un petit peu, j'étais avec quelques amis, on a décidé d'aller au cinéma, au Star City, voir Captain America, The First Avenger. Je me souviens, j'étais avec mon pote Marc-André, sa copine qui était enceinte jusqu'aux oreilles, mon pote Max aussi de l'université, puis j'étais avec deux de mes collègues aussi du club vidéo dans lequel je travaillais à cette époque-là. Donc là, on s'en va voir Captain America, le film joue, on ressort de là, puis la première chose que j'ai dit à mes amis, c'était « Je m'excuse de vous avoir amené voir ça. » Je ne sais pas ce qui s'était passé, j'avais été voir tous les autres films de la phase 1 au cinéma, de ces films de Marvel-là, mais celui-là m'avait déçu, parce que peut-être que je l'avais trouvé peut-être trop trop traditionnel. Peut-être le personnage de Captain America m'avait pas parlé, il m'avait pas fait rire comme, admettons, Tony Stark ouais. l'avait fait. Peut-être que le visuel m'avait pas impressionné comme celui que Kenneth Branagh avait fait quelques mois avant avec Thor. Puis peut-être que le personnage résonnait un peu moins avec moi comme Hulk l'a fait dans Incredible Hulk en 2008 ou quelque chose de genre. Donc, j'étais resté sur ma faim puis j'avais trouvé le film boboche. Chris Evans m'avait pas parlé non plus. Je trouvais qu'il avait fait une job très moyenne puis etc. En tout cas, whatever, sans savoir vraiment c'était quoi le grand portrait de l'univers de Marvel, c'est comme 8 ans plus tard.
Puis aussi, juste pour me te rajouter une petite affaire, c'est que quand le film est sorti en 2011, on venait d'avoir une panoplie de films ultra patriotiques, américains, d'armée et tout, puis là, il arrive avec le super-héros qui est Captain America. Si on n'était pas très familier avec le personnage, on pouvait facilement penser que c'était un autre de propagande.
C'est
de
ça, très Boy Scout. Ça. Tout ça,
bah exactement, oui. Mais non, c'est vraiment tout autre chose. C'était pour vraiment enfin amener le leader de cette prochaine équipe-là qui allait devenir les Avengers et maintenant qui est devenu ce qu'on voit aujourd'hui à coup de milliards et de milliards de... comme industrie.
Tout à fait, exactement. Donc, c'est un passage obligé vers, ben, de plus grandes choses. On va y revenir tantôt. Mais tout ça pour finir mon histoire que, bon, j'avais été déçu et que je n'ai pas revu ce film-là jusqu'à hier en l'écoutant en préparation de notre épisode d'aujourd'hui. T'as donné une idée à quel point, bon, je m'en foutais un petit peu. Et, bon, c'était malheureusement pas mon préféré. Puis là, ça m'a amené à faire toute une réflexion aussi. Je me disais, outre Iron Man en 2008, je crois que avec le recul, tous les autres films de la phase 1, admettons, sauf les Avengers, bien sûr, mais peut-être l'incroyable Hulk en 2008, Thor, ainsi que Iron Man 2 et Captain America, il avait été considéré un peu comme peut-être inférieur à ce qu'avait été Iron Man 1, ou peut-être un petit peu... En tout cas, whatever. Bien sûr, c'était le début des choses, les pièces de l'échiquier se mettaient en place dans le MCU, mais ça donnait des films où est-ce que, tu sais, c'était pas si bon que ça, à mon sens.
C'est ça, parce qu'on les voyait mettre justement la pièce en place pour nous amener le Avengers. On avait bien hâte aux Avengers tout, mais est-ce qu'on se doutait de ce qui allait arriver par la suite? Oui. Ça, ils nous l'avaient bien caché.
Puis aussi, parlant des Avengers, c'est drôle, mais la fois que j'ai été voir Captain America au cinéma, le premier avec ma gang, le jour de ma fête, ce qui est con, c'est que, tu sais, on restait toujours pour la petite séquence de préparation, ben oui, à la fin du générique. Puis là, moi, je savais déjà que c'était juste un petit aperçu, un petit snippet avec quelques séquences de quelques secondes de Avengers ouais. qui allait sortir l'été d'après. Puis là, bon, je fais comme, OK, on va rester, on va voir ça, on va s'hyper. Finalement, le générique finit. Il n'y a plus rien, les lumières s'ouvrent. C'est comme « Fuck, on a attendu tout
ils
ça ».
Ils ont enlevé ça.
Exactement. Fait que heureusement, j'avais pu trouver ce petit aperçu-là de The Avenger sur YouTube. Quelques heures plus tard, il y a un dude quelque part en Corée qui l'a filmé avec son téléphone sur l'écran quand il est allé voir. Fait qu'au moins, bon, j'ai pu avoir cette finalité-là puis me donner un petit peu le tease qui allait arriver pour l'été prochain.
Ah ouais, c'est quand même un bon tease. Là. C'est quasiment un trailer au complet.
C'était très intéressant. Mais bof, une autre affaire, c'était une autre raison pourquoi mon visionnement de Captain America au cinéma m'avait déçu.
Donc on remercie le Coréen pour pouvoir avoir remédié à la situation.
Merci beaucoup. Avant qu'on saute encore une fois à pieds joints dans le sujet du jour, qu'on décortique le film sur tous ses aspects, moi, ce qui est drôle, c'est que j'aimerais faire une petite historique des apparitions de Captain America au cinéma. Parce que ce film-là de Joe Johnston avec Chris Evans, ce n'est pas la première fois où Captain America est apparu sur les écrans de tout genre. Alors, si vous me permettez, à la maison, je vais faire un petit historique des films de Captain America. On commence en 1944, un film présenté en 15 parties. Là, on était vraiment dans l'époque des serials, tu sais, qui jouaient dans les cinémas avant que le film principal commence. Fait que là, les enfants capotaient, on voulait savoir comment ça se terminait. Alors là, fallait que les familles reviennent la semaine d'après pour voir l'autre partie de ce serial-là. Donc, voilà, un serial présenté en 15 parties dans lequel Captain America combat son ennemi juré, le Scarabée, qui a volé un appareil qui permet de détruire des immeubles par les vibrations sonores. Oh. C'était assez fou, c'était joué par un certain Dick Purcell, qui incarnait Captain America à cette époque-là. Ensuite, on va faire un saut de quelques décennies pour arriver en 1979, dans lequel il y a eu deux téléfilms pour la télévision de Captain America. Le premier s'appelait Sentinel of Liberty et le deuxième s'appelait Death Too Soon. Donc, c'était Captain America était joué par Reb Brown. Reb Brown, sais-tu un petit peu c'est qui? C'est genre un espèce de Schwarzenegger puis de Chuck Norris mélangeant ensemble des années 80. Oh. C'est un gars, man, avec un Christy de cri de guerre qui fait entendre à chacun de ses films. Ah! Et écoute, c'est quand on parlait que Marvel dans ces années-là, avant les années 2000, c'était pas très bien traité au cinéma. Eh bien, c'est l'exemple parfait. Tu sais, le costume était boboche. Captain America chevauchait une motocyclette. Son masque, c'était genre un casque de moto avec des goggles de protection. Et en tout cas, là, je me souviens que dans le premier film, il combattait le crime organisé. Puis dans le deuxième film, il combattait genre un homme d'affaires véreux qui était joué par Christopher Lee. Donc on est très loin comme genre du Scarabée puis même du Red Skull. Alors écoutez, ça donnait des téléfilms d'à peu près une heure et quart où est-ce que tout ce qui fait Captain America n'était pas respecté outre les couleurs de son costume. Alors c'est carrément à oublier. On fait un autre saut de 11 ans plus tard, en 1990, où est-ce que le réalisateur Albert Pune, qui est très réputé pour réaliser du schlock, il est arrivé avec sa version de Captain America. Tu sais, on n'est pas loin des films de Roger Corman en côté aspect production value. Et ce qui est amusant, c'est que le film est beaucoup plus fidèle à la bande dessinée que les autres versions de 44 et de 1979. Par exemple, bon, on a droit à la vraie origine de Captain America, dans laquelle il tombe congelé sous la glace en essayant de faire dévier un missile qui s'en vient vers Washington. Et il y a le Red Skull là-dedans comme vilain. Il y a aussi le vrai costume qui est très, très représentatif de ce dont il a l'air dans les bandes dessinées. C'est juste que, comme je disais tantôt, les oreilles qui sortent de la capuche normalement de Captain America, ben, sont faites en plastique. Et c'était Matt Salinger qui jouait Captain America à cette époque-là. Puis encore une fois, plus le film avance, plus tu te rends compte qu'on dévie beaucoup de qui est Captain America. Alors, ça a donné quelque chose, bon, de très boboche, très film canon des années 80. Et après ça, bien, on n'a pas revu Captain America avant 2011, notre bon vieux First Avenger, dont on va parler en ce moment. Pour ceux qui ont peut-être pas encore vu le film ou qui ont vécu sous une roche depuis les dernières années, je vais faire un petit résumé de l'intrigue pour nous mettre dedans. Alors ça va comme suit. En pleine Deuxième Guerre mondiale, Steve Rogers, un courageux gringalet à la santé fragile, ne rêve que d'une chose, pouvoir s'enrôler dans l'armée américaine pour servir son pays. Constamment refusé dans les bureaux d'inscription, la persévérance et la volonté du chétif jeune homme sont remarquées par un scientifique de l'armée qui voit en Rogers toutes les qualités requises pour tester sur lui un sérum développé secrètement pouvant améliorer au centuple les capacités physiques du corps humain. Après le succès absolu de l'expérience, Rogers est envoyé au front de guerre comme mascotte de propagande pour divertir le moral des troupes. Insatisfait de son rôle et conscient de son potentiel illimité, Rogers, aidé de quelques proches alliés, se lancera dans de périlleuses missions derrière les lignes ennemies pour contrecarrer les plans destructeurs d'Hydra, une dangereuse faction allemande dirigée par un sinistre personnage nommé le Crâne Rouge. Chaque action héroïque de Rogers le feront devenir un peu plus à chaque fois ce personnage mythique connu sous le nom de Capitaine America. Alors, on peut se lancer à pieds joints dans la conversation. On peut peut-être y aller par le premier aspect dont on discute tout le temps, c'est-à-dire les personnages. Les personnages principaux, puis on va peut-être parler de quelques-uns secondaires. Ben, on peut parler de notre ami Steve Rogers, qui va devenir Capitaine America dans cette histoire d'origine qui se passe, comme je l'expliquais, dans les années 40, je pense en 42 plus précisément. On est en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, littéralement. Comment est-ce qu'on peut définir Steve Rogers? Comment tu irais, toi, de ton côté?
Ah, Steve Rogers, c'est le courage incarné. Je veux pas, on commence en partant, le film va partir, on est dans les bas-fonds de Brooklyn, dans les années 40. C'est la préparation pour aller à la guerre. On parle de... Je veux pas, les États-Unis viennent de rentrer en guerre, donc on commence à faire la sélection. On essaie de trouver les meilleurs soldats possibles qui vont nous aider, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui peut. Avec son physique, comme tu as dit dans ton résumé, le physique qu'a Steve Rogers à cette époque-là n'est pas adéquat pour l'armée. On parle aussi d'énormément de soins de ce problème de santé. Il est asthmatique à la base, veut pas à cette époque-là, on n'envoyait pas les soldats asthmatiques. Steve Rogers a été choisi pour pouvoir faire cette expérience-là parce qu'il avait prouvé en tant que tel qu'il était pas nécessairement le meilleur soldat. Au contraire, parce que le sérum allait l'améliorer pour ses capacités physiques, mais le prouver à quel point qu'il pouvait être le meilleur leader, à quel point qu'il pouvait être la personne qui est prêt à sacrifier pour le bien des autres. C'est ce qu'on va voir justement dans le début du camp d'entraînement, si on peut s'exprimer ici. Il est poussé là, lui, par le docteur qui voit en lui un potentiel immense. Puis un coup que le sérum est injecté en lui, déjà au départ, on n'est pas sûr s'il va être capable d'accepter le sérum, étant donné que sa santé est très fragile, puis veut pas sa shape. Il est pas très, très musclé, le petit Steve. Quand que tout arrive, puis qu'il ressort en fin de là, on le voit qu'il a bien accaparé tout ce que ça représente. Évidemment, il y a eu le speech du docteur qui va lui vraiment y faire réfléchir sur « N'oublie jamais une chose et reste toujours qui tu étais avant ». C'est ce qu'on va voir tout le long du film. Le Captain America s'affranchir en étant quoi? Un homme extraordinaire, un homme d'exception, un futur leader extraordinaire au lieu justement de devenir juste une bonne brute bien musclée qui peut défendre et qui peut bâcher. Fait que non, on voit vraiment le caractère à la base de jeune Steve Rogers qui persiste dans la nouvelle entité qu'il est avec ses nouveaux pouvoirs-là en tant que tel.
T'as parlé d'une scène extrêmement importante, c'est-à-dire justement le soir avant l'injection et l'expérimentation, oui. Où est-ce que le fameux docteur Erskine, qui est le créateur de ce super sérum-là, qui est supposé faire des super soldats et qui est un défecteur qui travaillait pour les nazis au départ et là qui a été vers les alliés. Et bien ultimement, c'est ça, il y a une scène extrêmement importante que je voudrais qu'on regarde. On va se taper notre premier petit extrait de l'après-midi. Oui. Où est-ce que justement c'est ce pep talk-là qui va shaper beaucoup, qui va devenir Captain America, son mode de pensée et tout ça. Et ben à la maison, on va écouter ce petit pep talk-là de la part du Dr. Erskine le soir avant que l'injection se fasse chez le chétif Steve Rogers. Et c'est parti.
Mais le plus important, c'est le cobaye. Le sérum amplifie aussi bien les qualités que les défauts de l'homme. Si le bon devient meilleur, le mauvais devient donc pire. Voilà pourquoi on vous a choisi. Parce qu'une personne forte, qui a connu la puissance tout au long de sa vie, pourrait utiliser à mauvais escient ce pouvoir, mais une personne faible, elle, connaît la valeur de la force. Et sait ce qu'est la compassion.
Merci. Dans un sens.
Passez-moi les verres. Quoi qu'il advienne demain, je vous prie de me promettre une chose. Demeurez tel que vous êtes. Pas un soldat parfait, mais un homme bien.
Au Gringalet.
Non, ne buvez pas. À quoi est-ce que je pense? Demain, c'est le grand jour. Aucune boisson.
D'accord, on le boira après.
Moi, je ne vais subir aucune expérience. Alors, je vais le boire tout de suite.
Scène qui a l'air anodine, mais qui est extrêmement importante pour tous les personnages qui sont impliqués. Bien sûr, Steve a besoin d'une dose de courage, mais aussi Erskine fait ça pour ajuster quelque chose de mal qui a été fait. Parce que lui, comme je le disais, c'est lui qui est à l'origine de ce sérum-là. Le problème, c'est que juste un petit peu avant, il explique que la première personne sur qui l'expérimentation a eu lieu, c'est un général allemand du nom de Johann Schmidt. Et ben, cette personne-là, ultimement, est devenue le Red Skull, le crâne rouge. Pour Erskine, cette personne-là, ça a été un échec. Il a créé littéralement un super vilain. Donc, Erskine, je suis pas mal sûr qu'il y a ça sur le cœur et sur la conscience. Donc, c'est tout simplement le pep talk qu'il lui donne pour faire en sorte que Rogers, parce que Rogers aussi, c'est 50-50. Il pourrait se rendre compte aussi que Rogers pourrait péter une coche aussi, puis devenir encore plus un super vilain que Schmidt l'a été. Alors, c'est comme, il fait cette discussion-là pour le prévenir aussi, pour lui dire, oublie pas qui tu es. T'es un homme bien, d'accord? Ce stérum-là, on te l'administre pour que tu sois un instrument du bien, un instrument de la victoire, un instrument qui va inspirer les gens pour le reste de leur vie, un symbole. Chose que Johann Schmidt ne sera jamais.
Juste pour compléter justement ce bon docteur Erskine, lorsque quand tu dis que oui, il était à la base, il était nazi. C'est un Allemand. À la base, il est un Allemand. Il a changé de nom quand il est arrivé aux États-Unis. Les Alliés sont allés le chercher, ils l'ont sorti d'Allemagne. Parce qu'à la base, Erskine avait été engagé par Hitler lui-même pour pouvoir créer ce sérum-là. Parce que les recherches du docteur Erskine étaient déjà connues au niveau de l'Allemagne en entier juste avant. Le début de ses recherches coïncide avec le début du mouvement nazi en Allemagne. Quand que le docteur Erskine s'est rendu compte de la gravité de ce qui s'en venait en tant que tel, pour ce sérum-là et l'application de son sérum, c'est là que le Dr. Erskine a décidé d'émigrer vers la Suisse et de se sauver avec sa famille. C'est là qu'Hitler a appris. Hitler a envoyé justement Schmidt, qui va devenir Red Skull, à cette rousse pour pouvoir le ramener et le forcer à faire ce sérum-là. Schmidt, quand il a vu vraiment ce qu'il y avait entre les mains et ce qui se concoctait, est devenu complètement omnibulé par ce sérum, a réussi à... Dans le fond, il a dérobé la version non officielle, pas encore tout à fait prête, pour se l'injecter lui-même, avec les conséquences désastreuses que sa peau a littéralement fondu.
C'est ça, mais ultimement, tout le reste a fonctionné. C'est, il a donné une super force, exact, ou quelque chose du genre, vraiment des capacités physiques complètement décuplées.
Que justement, le docteur avertit Steve Rogers de pas changer, qu'il a vu comment que le sérum peut devenir, c'est justement, à la base, c'était une personne machiavélique, une personne mauvaise, Schmidt. Lorsqu'il a eu le sérum, ces trucs-là en dedans de lui, toute cette méchanceté, toute cette cruauté, a quintuplé également. Donc ce sérum-là ne va pas juste affecter tes conditions physiques, ta force ou tout, il va aussi agir sur ton cerveau. Il va te développer en 10 fois plus que t'es déjà. Donc si t'es une personne vilaine, tu vas être 10 fois plus vilain. Mais si t'es quelqu'un comme de courageux avec des qualités de leadership comme Steve Rogers, ces qualités-là aussi vont être décuplées, ce qui va faire en sorte qu'il va devenir un des plus grands leaders qu'on va voir tout au long du film, ces qualités de leadership-là vraiment mais mis en valeur au fur et à mesure qu'il gagne la confiance en lui.
Le film prend le temps aussi de nous montrer l'envers de la médaille. On passe un long moment avec Steve le gringalet. Puis aussi, bon, des gens pourront chialer sur l'image de synthèse et tout ça, les procédés qui ont fait en sorte de transformer Chris Evans en un petit bonhomme chétif. Mais même quelques années plus tard, je trouve ça quand même bien. C'est bien fait, à part quelques plans où est-ce qu'on le voit de face puis il a l'air de montrer un petit morceau du menton.
Oui.
Mais pour le reste, il y a eu énormément de techniques mises là-dedans puis je trouve que l'effet passe bien. Puis aussi pour le faire sur une si longue durée, parce que Marvel est très connu depuis les dernières années pour déager les acteurs. Ultimement, ça fonctionne bien, mais c'est seulement pour quelques moments. Outre le plus récent Captain Marvel, parce qu'on voit Sam Jackson qui a vraiment été rajeuni quasiment pendant tout le film. Tandis que là, c'était Captain America, le First Avenger, qui détenait cette palme-là du plus longtemps, montré à l'écran, ben, ce processus, justement, où est-ce qu'on change complètement la physionomie d'un acteur. Alors, je trouve que quand même, c'est assez bien fait. Ça dure longtemps, puis après ça, dès que le changement arrive, parce que le super sérum révèle tous ses bienfaits sur Steve Rogers, là, on peut voir en fait un beau Steve Rogers musclé, puis tout ça, au summum de sa shape.
C'est ça. Sauf que quand tu parles de cette fameuse manipulation-là des corps pour soit rajeunir, soit amaigrir, ou quoi que ce soit, tu vois, moi, c'est là que j'avais eu le hic, puis c'est là que j'avais décroché la première fois que j'avais vu le film. Pas à cause du physique qu'on donne à Chris Evans, parce que c'est vraiment une question de voix. Là, on vient de voir un extrait en français. C'est la première fois que j'entends la voix en français de Steve Rogers. Je trouve que ça fit plus avec le corps fétiche que la voix originale en anglais de Chris Evans, qui est une voix très grave quand même. Fait que quand tu vois ce petit bonhomme chétif-là avec la grosse voix grave de Chris Evans au début du film, moi, c'est là que j'avais décroché à la base. Je me suis mindé pour pouvoir passer par-dessus pour le réécouter par la suite. J'ai réussi. J'accroche encore un peu quand même, mais oui, visuellement, il n'y a aucun problème. C'est vraiment juste la voix, moi, qui m'a fait un petit...
C'est ça, c'est vrai qu'il aurait pu avoir juste un petit ajustement sonore en post-production pour le rendre un peu plus aigu.
Ouais.
Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, je pense qu'en du long, on encule des mouches, mais bon, c'est pas grave. Au moins, le visuel fonctionne. Ça m'a fait croire que ce beau gars-là, tout musclé, ben, a déjà été un petit gringalet de 5 pieds 5. Tout bon héros doit avoir un vilain. Et là, bon, ils ont pas perdu de temps. Et heureusement, ils ont pas utilisé un mafioso ou bien un homme d'affaires véreux comme en 79. Ils ont littéralement choisi, ben, le vilain le plus iconique de Captain America. J'ai nommé le crâne rouge, le Red Skull. Et, ben, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'époque, quand ils ont annoncé qu'ils sont allés chercher Hugo Weaving pour jouer ce personnage-là, j'étais aux anges. J'adore Hugo Weaving. Moi, je l'ai découvert à l'époque dans Matrix. Bien sûr, je l'avais déjà vu avant dans, mettons, Priscilla, la reine du désert. Mais c'est un gars qui est très très bien pour jouer ce type de personnage-là, un peu plus grand que nature.
Mais c'est cet air sévère qui le catégorise, Hugo Weaving.
Exactement. Puis aussi, ben, je dois dire, pour du côté des qualités, avant de passer au pot, le maquillage est très bien fait aussi, un beau mélange de prothèses ainsi que de CGI pour retirer le nez, littéralement, pour donner l'effet escompté, pour le faire ressembler le plus possible à la bande dessinée.
Ben,
c'est très très bien fait.
Oui,
massier, creuse et tout ça. Donc, on y croit. La seule affaire, c'est que jusqu'à très récemment, je pense que jusqu'à l'arrivée de Thanos dans le MCU, le problème des films, c'était les antagonistes. Comment ils sont écrits, comment ils sont utilisés dans ces films-là. Eh bien, moi, je trouve que dans la phase 1 de tous les films qui ont été faits, le plus gros et le plus mal exploité, c'est le Red Skull. C'est ça qui est un petit peu triste parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour ce vilain-là. Oui. C'est juste qu'il est montré de manière très manichéenne, de manière qui révolutionne aucunement l'utilisation d'un vilain au cinéma. Surtout qu'il est très réactif. Le Red Skull, il arrive toujours après que Captain America ait bousillé un de ses plans ou quelque chose du genre. Fait qu'il est toujours en réaction, de quand « Ah, oh, je me suis fait avoir! Ah, Steve Rogers, nous reverrons! » Puis c'est ça qui me déçoit. Puis aussi, bon, on va y venir tantôt, mais... l'affrontement final entre Captain America et Red Skull, ben en fait, de la manière dont il est vaincu, encore une fois, ça arrive du hasard complètement, et c'est plutôt son plan qui se retourne contre lui, tandis que, tu sais, comme on dit encore une fois en anglais, excusez des anglicistes cet après-midi, mais c'est anti-climatique. C'est-à-dire que c'est un petit peu décevant et le potentiel n'est pas tout à fait exploité. Puis c'est peut-être pour ça aussi que à la fin, Hugo Weaving a dit non, je reviens pas en tant que Red Skull, puis qu'il a encore eu une expérience un peu décevante. Fait que c'est pour ça qu'il veut ne plus refaire ce personnage-là. Parce que c'est bizarre, Hugo Weaving a l'air d'avoir la mèche coûte dans la vie. Ouais. Surtout qu'il y avait, tu sais, ça avait commencé, à mon sens, avec les Transformers, parce qu'il avait été signé pour les trois premiers films de Michael Bay pour faire la voix de Megatron. Puis là, le premier, il l'avait fait avec plaisir, puis les deux autres, il est allé de reculons parce qu'il était tellement maudit que les monteurs sonores aient tellement mis d'effets sur sa voix pour le rendre robotisé qu'on le reconnaissait plus, Hugo Weaving. Alors là, il était en maudit là-dessus. Puis là, Weaving ne revenait pas aussi parce que Red Skull revient dans les deux plus récents films des Avengers pour un petit caméo d'une scène ou deux. Très important quand même, mais a dit non, je ne reviens pas, je me retape pas votre foutu maquillage, puis tous les désagréments que ça a fait, parce que ça doit être quelque chose de chiant de son côté, ces journées de tournage-là en maquillage du Red Skull. Tu sais, tu peux pas trop manger de peur de péter le maquillage. J'imagine qu'il devait être nourri par intraveineuse, quelque chose du genre.
Des dizaines d'heures de préparation à chaque jour avant le tournage. Ça, j'ai lu à quelque part qu'il avait pas ben aimé ça, mais bon, mais tu vois, même quand on en parlait l'autre jour de Go Waving, puis justement, on disait même qu'on avait été surpris qu'ils reviennent pour faire les Hobbits, quand ils avaient fait à la base les trois Seigneurs des Anneaux, puis quand on savait que le personnage allait revenir des Hobbits, on se demandait tout si Hugo allait reprendre le personnage. Il l'a fait, ça nous avait surpris, apprécié.
Oui, c'était une présence rassurante, c'était le fun de le revoir. Là. L'acteur parfait pour jouer le rôle, mais de la manière dont il a été utilisé, a été sous-utilisé, parce que moi j'aurais aimé en plus de scènes avec le Red Skull, juste pour encore plus comprendre c'est quoi qu'il veut, qu'est-ce qu'il drive. Tu sais, on aurait pu vraiment, tu sais, rendre le personnage plus en 3D.
C'est ça. Ben, tu vois, le risque un peu avec ça, c'est que l'histoire du Red Skull en tant que tel a été un peu dénaturée de son histoire avec les BD. Quand on arrive dans le film, Hydra, c'est la faction nazie qui est dirigée et qui a été créée par le Red Skull, par Johann Schmidt. Sauf que dans les BD, Hydra n'a pas été créé, il n'a jamais été dirigé non plus par le Red Skull. Il est à l'occasion venu aider Hydra, parce que c'est une immense organisation. Mais il avait sa propre identité, sa propre personnalité, lui, puis surtout c'est son propre agenda, qui est souvent relié avec tuer Captain America. Là, en le mettant directement créateur et leader de Hydra, qui est appelé, veut pas, à être décimé à la fin du film, normal que le fondateur suive. Tandis que dans les BD, il a tout le temps survécu, peu importe chaque échec de Hydra, en étant une entité indépendante d'Hydra, a tout le temps réussi à se sauver, à survivre, puis à revenir encore plus méchant qu'avant. Puis c'est le fun, justement, qu'il ait pris le Red Skull. Parce que le Red Skull, à la base, ça m'a surpris dans ton historique des autres anciennes présences cinématographiques de Captain America, n'avait jamais été utilisé.
Mais il avait été en 90, okay, mais seulement au début du film. Après on fait un saut dans le temps où est-ce que le Red Skull a eu une chirurgie plastique pour y mettre un visage bien normal.
Ouais. Ben c'est ça, parce qu'à la base, un BD, c'est le premier vilain que Captain America rencontre. On parle 1940, Captain America volume 1, celui qui a tout bâti de tout. Petite différence, il y avait un masque. C'était un masque rouge qui éventuellement dans les BD est devenu ce qu'on voit aujourd'hui dans les films, là. Une peau littéralement arrachée fondue.
C'est ça, ça me rappelle une anecdote, encore une fois, la fois où est-ce que j'étais allé voir le film au cinéma, j'étais avec une de mes collègues de travail, puis elle déteste toute forme de gore au cinéma. Puis dans le film, tu sais, il y a un moment où est-ce que, bon, il enlève le masque de peau normale pour révéler le Red Skull, de quoi il a vraiment l'air en tout. Mais elle le savait pas. Fait qu'elle, elle pensait vraiment qu'à un moment donné, il était tellement maudit contre Captain America que pour, genre, montrer sa frustration, ben, il s'arrachait le visage. Littéralement. Puis là, t'es comme, parce que ça m'avait fait tellement rire. Puis après ça, j'ai expliqué un petit peu qu'effectivement, le vrai visage, c'est le rouge et c'est pas qu'il est en train de s'arracher à la face. Le meilleur gore, comme dans un film d'Hellraiser ou quelque chose de genre.
Mais justement, cette scène-là, c'est pour les fans. Moi, la première fois que je m'étais rendu à la scène, dès qu'on voit un petit peu, dès qu'il reçoit le coup de pied, là, tu vois, en dessous de l'œil, un petit peu de rouge.
Oui.
Là, c'est, là, il arrive. Là, on est, yes, Red Skull va enfin dévoiler son visage.
Effectivement, le grand dévoilement. Puis c'est bien fait quand même.
Oui, quand même, oui.
On peut revenir du côté des alliés de Steve Rogers durant ce film-là. Moi, j'aimerais parler de Peggy Carter, qui est jouée par une des femmes de ma vie, Hayley Atwell, que je trouve absolument incroyablement talentueuse, belle, mon genre de femme, bref. Et ben, c'est pas pour rien ultimement que ben, tu sais, la performance qu'elle a donnée pour le rôle de Peggy Carter dans ce film-là, ben, il y a eu plein de dénivellations. Ultimement, il y a une série télé qui a été conçue littéralement sur ce personnage-là pour faire un peu le lien entre la création du S.H.I.E.L.D. dans les années 60, 70, etc. Plus, c'est un personnage qui vient de manière sporadique. Dans les autres films de Marvel, on la revoit des fois popper dans, je pense, au début de Ant-Man, si je ne m'abuse, dans Winter Soldier également, où est-ce qu'on la voit dans ses derniers jours de femme vieillissante et Alzheimer, si je ne m'abuse. Puis dans certaines autres petites scènes dans d'autres films ici et là de l'univers, mais toujours bien jouée.
Dans le fond, elle a été vraiment impliquée dans S.H.I.E.L.D. à tous les niveaux, pendant des trentaines, quarantaines d'années, jusqu'à malheureusement sa vieillesse et sa démence, qu'on apprend beaucoup plus tard avec l'histoire des films de Marvel qui vont continuer.
C'est ça, exactement. Puis on sent, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent une belle chimie à l'écran avec Chris Evans et elle, qui nous fait croire qu'effectivement, qu'il y a un béguin qui se crée chez Peggy, cette femme forte, cette femme avec beaucoup d'attitude, qui ne s'en laisse pas imposer par des hommes dans un monde d'hommes, littéralement. Je crois en cette histoire d'amour-là qui s'étend sur des décennies et sur un paquet de films aussi pour nous donner une merveilleuse finale dans la fin d'Avengers Endgame. Mais en tout cas, j'aime bien la voir, j'aime ce personnage-là. Malheureusement, j'ai pas suivi Agents Carter.
Je l'ai pas vu, moi, non plus. Tu parles d'une histoire. Non, ça a pas donné sur ma liste, mais bon.
Dans le temps comme dans le temps, comme on dit.
Oui, c'est ça. C'est deux saisons, je crois, de toute façon seulement.
Deux, trois, si je ne m'abuse.
Non, peut-être, mais c'est ça, mais j'ai bien hâte. Parce qu'il y a tellement de questions que je me pose sur la suite des choses de cette époque-là, quand on la quitte, l'époque, à la fin du film, que je me demande si ça se transperce dans Agent Carter. Puis j'ai l'air de voir ça, comme les personnages, l'équipe en tant que telle qui est montée par Steve Rogers, est-ce que ces gars-là sont dans les missions, est-ce qu'on les voit
dans
le
Howling Commando, c'est ça?
Yes,
oui. En fait, je sais que Howard Stark, qui est joué par Dominic Cooper, qui a l'air d'un jeune Freddie Mercury là-dedans aussi, et là, apparaît assez souvent, il est accompagné de Jarvis aussi, et tout ça, donc il y a certains liens qui se font, donc apparemment, bon, c'est très bien fait, et bon, elle est à toi, heureusement, elle est là, tellement, après avoir vu ce film-là, après l'avoir découvert, genre, j'ai suivi un petit peu sa carrière, je me suis tapé quelques autres films qu'elle a fait, je me suis même tapé série télé, un remake, tu sais, de The Prisoner, à l'époque, série télé de la BBC, où est-ce que, genre, des gens sont dans une espèce, genre, de ville modèle, où est-ce que si t'essaies de t'en enfuir, tu te fais poursuivre par des grosses bulles qui veulent, genre, t'aspirer, Alors, c'est ça, elle jouait là-dedans, elle était très, très bien également. Fait que, moi, non, je suis un fan d'Elle et Atwell. Alors, tant mieux.
Fais attention, par contre, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent présentement, surtout avec l'arrivée de la chaîne Disney+, qu'il y aurait un reboot qui serait fait d'Agent Carter avec Chris Evans qui serait là également. On arriverait dans cette fameuse époque-là pour pas trop dévoiler au cocosseux. On n'a pas vu encore le chef-d'œuvre qui est sorti il y a quelques mois. Mais bon, mais c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. Disney a rien confirmé. Même que Kevin Feige en a ri de cette rumeur-là. Ils nous ont déjà envoyé dans la mauvaise direction dans le passé, mais je ne crois pas que ça va arriver. Mais aussi, on peut se croiser les doigts quand même.
C'est ça, je suis un petit peu sceptique aussi, mais on verra tout ça, parce qu'ils ont déjà annoncé quelle série télé serait faite sur Disney+, et je n'ai pas entendu parler de Agent Carter, ni d'un retour de Chris Evans qui a accroché le bouclier.
Ils ont déjà annoncé le retour de Chris Hemsworth. Ça me surprendrait qu'ils annoncent que Chris Evans revient.
Est-ce qu'on va avoir droit au Asgardian of the Universe? On verra tout ça. Puis très rapidement, bon, je sais qu'il y a d'autres personnages secondaires, style le général qui est joué par Tommy Lee Jones, de Howard Stark, le père de Tony Stark, qui est là aussi. Mais je voudrais, pour pas qu'on passe l'après-midi là-dessus, je voudrais juste finir avec notre fameux Dr. Erskine qu'on a parlé, qui est joué très très bien, de très belle manière, par Stanley Tucci. Dommage qu'on le revoie pas dans d'autres films subséquents. J'aurais bien aimé voir, encore une fois, Monsieur Stanley Tucci reprendre ce personnage-là. Oui. Une belle performance. On peut y aller du côté du scénario maintenant. Qui a écrit ça? Eh bien, c'est écrit par Christopher Marcus et Stephen McFeely, qui eux autres, depuis cette époque-là, sont devenus pas mal les scénaristes clés des plus gros projets cinématographiques de Marvel. Ils ont scénarisé la trilogie de Captain America et c'est les scénaristes des plus récents opus de The Avengers, c'est-à-dire Infinity War et Endgame. Donc, ces gars-là ont fait un travail absolument gigantesque pour réussir à mélanger tous ces personnages-là, tout dans cet univers-là, pour faire un tout cohérent. Mais avant qu'on rentre vraiment dans les Avengers, il faut quand même focusser sur au moins la trilogie Captain America avec Winter Soldier et Civil War. Ce sont des films, on va y revenir tantôt, mais qui sont supérieurs à l'original de plusieurs manières possibles et qui ont amené vraiment ce personnage-là à devenir un des favoris de la foule et qui a aidé aussi à introduire d'autres personnages de l'univers Marvel dans ces films-là aussi. Donc, ils ont fait un travail absolument colossal en balançant aventure, humour, héroïsme. Et eux autres aussi semblent être tombés amoureux comme moi de Hayley Atwell, parce que c'est eux autres qui ont créé la télésérie de Agent Carter. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur leur scénario?
Ce que j'apprécie énormément, ce qu'ils ont fait, c'est que, quand on voit souvent ça dans les films de super-héros, ce que l'origine de la BD a complètement été transformée vis-à-vis de l'origine dans le film. Ils ont resté extrêmement fidèles à la création originale de Captain America. C'est sûr que quelques petits trucs, quelques détails vont changer, comme tantôt je disais à propos d'Hydra et de Red Skull, mais ils ont tellement resté fidèles que c'est là que les lecteurs s'en sont vraiment reconnus avec leur super-héros qu'il connaissait en Captain America. Le processus pour la transformation est exactement pareil comme en BD, même quasiment image par image avec la réalisation conjointe avec le scénario. Les minimes différences, c'est dans le fond, parce que Captain America, comme on va voir au début du film, est trouvé 70 ans plus tard, est trouvé par Shields à la base, était trouvé par les Avengers qui existaient déjà. C'est des petits détails, dans le fond, c'est juste mineur pour pouvoir faire en sorte que tout le reste s'enligne à la bonne place pour nous avoir donné vraiment une œuvre intégrale et complète. On va repasser comme quand on se rappelle le premier film des X-Men qui avait été fait, où ce que les différences étaient tellement flagrantes entre les BD puis le film que c'en était insultant. Là, on n'est pas là du tout. Là, on n'est pas là du tout. Il n'y a pas deux personnages qui ont grandi ensemble qui se connaissent pas. Là.
Mais qu'est-ce que tu préférerais du spandex jaune?
Ah non, non, c'est juste j'aurais aimé que Wolverine et Sabretooth se connaissent quand même. C'est juste petit commentaire personnel.
Mais aussi, ce qui est le fun pour rebondir sur ce que tu dis, Marcus puis McFeely, eux autres, dans la première batch des films de Marvel, je pense qu'ils ont eu la structure de scénario la plus facile avec laquelle travailler. Parce qu'il y avait déjà, surtout en le mettant en film d'origine qui se passe dans les années 40, il y avait déjà leur début et leur fin de film. Oui. C'est-à-dire le début, jeune gringalet qui se fait injecter le sérum, et à la fin, qui se sacrifie pour justement sauver le monde et qui finit gelé et que finalement, il va être réveillé dans les années 2000. Là, tout ce qu'il y avait besoin de faire, c'est travailler le milieu, c'est-à-dire comment t'introduis ton Red Skull, comment t'introduis Bucky, Peggy Carter et d'autres petits personnages, dans quelle péripétie tu vas les mettre. Oui. Donc, vraiment, ce qui est le fun, c'est que leur fil de départ, leur fil d'arrivée, ils l'avaient déjà, fallait juste travailler dans le milieu. Une chance que n'a pas eu, admettons, les autres films, admettons, Iron Man, Thor, Hulk, c'est correct, ils ont eu un beau carré de sable dans lequel jouer. Ils l'ont fait de manière adéquate, je trouve. Donc, oui, ils ont vraiment travaillé dans le carcan pour rendre du moins plus fidèlement, tout en modernisant un petit peu l'histoire d'origine de ce personnage-là. Parce que, si on peut se permettre, j'ai regardé un petit peu le wiki récemment de Captain America, puis lui, de la manière comment il tombe congelé pendant 60 ans dans la glace, c'est que je pense que le Red Skull lance un missile vers Washington. Alors là, Captain America s'accroche au bout du missile, puis là, gosse dans les circuits pour le faire dévier de sa course. Finalement, le missile finit en Alaska. S'écrase et Captain America tombe gelé à côté du missile, c'est pas mal ça. Tandis que là, on a une variation à la fin du film qui amène au même but, mais avec une modernisation qui est plus crédible pour des spectateurs de cinéma et non pas des lecteurs de bande dessinée.
Ben non, c'est ça, des petites variantes comme ça. Comme aussi le personnage Bucky. Bucky dans les BD n'est pas un ami d'enfance de Steve Rogers.
Parlons de quoi il avait l'air Bucky ultimement,
Bucky,
comme tu disais tantôt.
Sa première apparition dans les BD, c'était un peu... Dans le fond, c'était le Robin de Batman. C'était un petit être avec un petit masque, puis c'était Bucky Boy.
Avec une petite cape,
puis c'est ça, c'est un petit faire-valoir qui ensuite est devenu quelqu'un qu'il a rencontré pendant la guerre, mais pour le soin du film, j'aime ce qu'ils ont fait avec Bucky. Ami d'enfance, protecteur même d'enfance dans ces quartiers-là.
Très noble.
Parce qu'il venait le sauver de... Parce que Steve Rogers ne recule devant personne, même quand il était petit chétif. Fait que là, de lui donner un lien très fort comme ça, qui va pousser encore plus quand on va penser que Bucky est disparu, qui va rajouter à la peine, puis pas juste ça, mais rajouter aussi la culpabilité de Captain America, qu'on va sentir cette culpabilité-là pendant au moins trois autres films, juste à temps que Bucky devienne enfin le White Wolf.
Exactement. Oui. Mais ce que tu vas faire, Phil, je m'en vais t'interrompre, mais mets un petit signal là-dedans, parce qu'on va y revenir avec Bucky, parce que je trouve que dans les qualités de ce scénario-là, c'est un des problèmes. OK, je vais t'arriver avec une proposition alternative pour modifier la mort de Bucky dans ce film-là. On va y venir tantôt, mais moi, je veux y arriver. Je veux juste finir avec le scénario en disant ces deux gars-là, ce qui est bien Marcus et McFeely, ont planté certaines petites graines qui sont arrosées à chacun des films de Captain America, du moins dans sa trilogie, pour nous amener jusqu'à la finale de Endgame, où est-ce que là, ben, cette préparation-là, elle a un paiement. C'est ça qui est le fun. Huit ans plus tard, il y en a un. Alors, ben écoutez, ça va nous amener à notre extrait qu'on va écouter immédiatement. Justement, on en parlait à la fin, où est-ce que Captain America va se sacrifier pour faire en sorte que des bombes n'atteignent pas la civilisation. Captain America va faire le sacrifice de lui-même en faisant écraser un avion. Il ne sait pas, il y a des chances de survivre, il y a des chances de mourir, mais au bout de la radio à qui il parle, c'est nul autre que Peggy. Alors les deux, ben voilà, on peut regarder leur dernier moment ensemble. Une scène que j'ai redécouvert que je trouve très très bien faite. Alors on l'écoute ensemble, on en discute après.
Oui. Donnez-moi vos coordonnées, on trouvera un lieu sûr pour l'atterrissage.
Je n'arriverai pas à me poser en douceur.
Je vais tenter un atterrissage forcé.
Je vais dire à Stark de vous rejoindre, il va trouver une solution.
Non, le temps presse. Cet avion vole très vite et se dirige droit sur New York.
Je dois l'immerger au fond de l'océan.
Ne faites pas ça, je vous en prie. On va bien trouver un système pour vous faire atterrir.
Je me trouve au beau milieu de nulle part pour l'instant. Si j'attends, des milliers de personnes mourront. Peggy.
Je suis là.
Il va falloir reporter notre soirée dansante.
Ok. Samedi soir en 8, rendez-vous au Stalk Club.
C'est d'accord.
À 20h précise, ne soyez pas en retard. Compris?
J'ai toujours aucune notion de danse.
Je vous donnerai quelques leçons. Il vous suffit de venir.
On demandera au groupe un morceau de musique très lent.
Je voudrais pas vous marcher sur...
Steve?
Scène d'adieu très très touchante. Oui. Et tout le long du film, les deux ont des petits sous-entendus. Ils se parlent de leur partenaire de danse, ils parlent d'aller danser, etc. Et c'est exactement le cas dans cette scène-là, où est-ce qu'au moment de se sacrifier, eh bien, pour réussir à faire changer un peu les idées de Steve et tout, de mieux faire passer cet adieu-là, ils ne se disent pas adieu pour vrai, ils se planifient une danse. On se revoit à tel moment, et enfin, on va danser ensemble. Oh, puis après oui. Ça, bon, la fin du film est un peu triste, parce que Captain se réveille des années plus tard, fait comme, ah, fuck. J'avais une danse de prévu, j'avais une date, mais finalement, ce qui donne des frissons, c'est qu'à la toute fin, le dernier plan d'Avengers Endgame, de cette saga-là, genre de 11 ans, ben voilà, c'est Peggy et Steve qui dansent l'un contre l'autre, puis on dirait qu'ils vont danser jusqu'à la fin des temps comme ça, donc c'est ça que je trouve, cette petite graine-là qui a été réutilisée à la longue, qui donne ultimement une satisfaction à ce personnage-là, en fait à ces deux personnages-là, cet amour tragique qui ultimement, son plein potentiel est atteint.
Ben j'étais content, écoute, on le savait, le contrat de Chris Evans était fini avec le MCU, je ne voulais pas voir mon Captain America mourir, j'ai été satisfait. Extrêmement satisfait. Il a même vécu une vie. C'est pas merveilleux?
C'est ça qui est merveilleux, finalement, Captain America.
Quelle fin de personnage.
C'est ça. Ben, finalement, Steve Rogers, ben, a décidé de prendre une chance pour lui au lieu de la donner aux autres. Puis, voilà. Il a son dû, il a ce qu'il mérite. Et voilà. C'est la plus belle des conclusions possibles. Bon, écoute, on revient dans le vif du sujet. On parlait de Bucky. Ok. Bon, ce scénario-là n'est pas parfait, bien sûr. Et, ultimement, bon, je trouve que ce personnage-là, la mort de Bucky aurait pu être mieux fait parce qu'on sait que Bucky revient sous les du soldat d'hiver, le Winter Soldier, un des personnages les plus fatals de l'univers de Marvel. Et ultimement, je trouve que dans ce film-là, c'est mal exploité. Moi, ce que j'aurais fait, encore une fois, j'aurais peut-être changé un petit peu cette scène de mort-là, parce que dans le film, c'est qu'une explosion dans un wagon de train. Bucky se tient à une barre de sûreté. Au moment où est-ce que Steve Rogers arrive pour le pogner, la barre de sûreté à lâche, puis il tombe dans le vide, tout simplement. Moi, malheureusement, ça ne m'a pas touché. Je ne connaissais pas Bucky autant pour m'en faire, puis faire comme, oh non, ben, ça me fait quelque chose dans mon petit cœur, alors je m'en foutais un petit peu. Et ultimement, moi, ce que j'aurais fait pour améliorer ça, j'aurais impliqué le crâne rouge là-dedans. C'est à cause du crâne rouge que Bucky serait tombé dans le vide, et ça aurait créé encore plus d'animosité entre Captain America et le Red Skull, parce que c'est lui le responsable maintenant de la mort de son meilleur ami. Là, t'aurais eu une dualité incroyable entre les deux personnages. Alors moi, ne reculant devant rien pour augmenter la qualité de ce podcast, je te proposerais qu'on est dans un multivers, littéralement, et je peux te faire entendre ma version de cette scène-là de mort de Bucky. Alors s'il vous plaît, commençons la musique d'Alan Silvestri. Dans le wagon de train en marche, Capitaine America et Bucky combattent des soldats d'Hydra.
Feu à volonté! Tuez-le!
L'un des projectiles d'énergie que tire un des soldats fait exploser la paroi du wagon. Bucky est expulsé à l'extérieur, mais agrippe de justesse une barre de soutien, ce qu'il retient tombé dans le ravin sans fond qui surplombe les rails sur lesquels le train se déplace à grande vitesse. Captain America neutralise rapidement les soldats ennemis et file à toute vitesse pour porter secours à son ami. Bucky agrippe de toutes ses forces la barre de soutien qui commence à se détacher de la paroi endommagée du wagon. Rogers se glisse à l'extérieur et tend la main à Bucky pour le sauver.
Attrape la main!
Leurs mains se touchent presque. C'est alors qu'un puissant projectile d'énergie s'abat à quelques centimètres de la tête du héros. Le coup de feu énergétique provient d'une arme tenue par le crâne rouge, dont la présence dans le train était tenue secrète. L'impact propulse Rogers au sol, qui est aspiré vers l'extérieur du wagon. Il parvient à saisir une sangle de sécurité qui l'empêche aussi de tomber dans le ravin. Rogers et Bucky ballottent dans les bourrasques de vent aux deux extrémités du wagon. Le crâne rouge s'approche de Rogers avec un sourire sadique au visage. Le crâne rouge dit «
Capitaine, puisque vous êtes venu ici pour m'empêcher d'accomplir accomplir ma destinée en me volant ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Je vais vous enseigner l'effet que ça fait de perdre ce qui nous est cher.
Le crâne rouge se retourne vers Bucky et donne un puissant coup de poing sur la barre de soutien à laquelle il se retient. La barre se détache de la paroi métallique et Bucky tombe vers sa mort dans les profondeurs du ravin. Rogers pousse un cri de désespoir et de rage. Le crâne rouge s'approche de Roger.
Il ne peut y avoir qu'un super soldat en ce monde, moi, Johann Schmidt. Rappelez-vous ce nom pendant votre route vers la mort. Auf Wiedersehen, Capitaine America. J'adorerai vos films.
Le crâne rouge pointe son fusil vers la tête de Rogers. Soudainement, des impacts de coups de feu retentissent tout autour du crâne rouge. Le troisième soldat du Howling Commando qui accompagnait Rogers et Bucky est posté sur le toit du wagon et tire en direction du vilain. Le crâne rouge se met à couvert et quitte le wagon. Le soldat allié saute dans le wagon et tire sur la sangle pour ramener Rogers en sécurité à l'intérieur. Le crâne rouge entre à toute vitesse dans la locomotive du train et tire sur une manette du tableau de bord. La locomotive se sépare de tous les autres wagons du train qui restent en arrière. Le crâne rouge s'évade ainsi, laissant Captain America en arrière. Voilà, c'est un peu ma manière comment ben on aurait pu rendre la mort de Bucky plus symbolique en augmentant la rivalité entre le crâne rouge et Captain America. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, mais un léger hic. en se sauvant avec la locomotive Red Skull, est-ce qu'il part? Parce qu'il n'y a pas de mention, parce que c'est dans le train, dans ce train-là, c'est là que Captain America va capturer le docteur Armin Zola.
Ouais, ouais, c'est
effectivement. Est-ce qu'il se sauve ou est-ce qu'il est capturé quand même dans ta version?
Bon, on va dire que, ben, pour finir ça, le crâne rouge, il veut se débarrasser de Zola, fait qu'il il sort de la locomotive, puis il fait comme genre, voici votre prix de consolation, quelque chose du genre, tu sais, je sais pas.
C'est bon, ça, j'accepte. Parce qu'il faut que Zola soit capturé, c'est important.
En effet, c'est vrai, j'avais oublié ça.
Un autre personnage qu'on n'avait pas parlé, c'est le bon docteur Armin Zola.
Armin, et voilà.
Lui, c'est pas un défaut d'avoir changé son apparence pour le film. Je sais pas si t'as vu de quoi qu'il ressemble dans les BD. Écoute, dans la BD, le docteur Armin Zola, quand il fait sa première apparition, ça ressemble à un mélange un peu de Krang dans Ninja Turtles mélangé avec, tu sais, les vieux bonhommes He-Man. Il y en avait un qui se mâchait à la tête puis qui pouvait tourner puis qui était magané. C'était à peu près ça, là. Quand on le voit la première fois dans le film, d'ailleurs, Armin Zola. Armin Zola et non Amin. Émile.
Du Maghreb, c'est ça, oui.
C'est ça, on le voit à travers une immense vitre, une immense verre ondulé en rond qui fait ressortir vraiment comme son hip-hop-près ou qui serait agrandi, ce qui fait un rappel justement à son apparence ridicule qui est apparue dans les comic books. Première apparition de Zola dans les comic books, 77. Captain America numéro 208. Puis il avait vraiment, vraiment, vraiment de l'air fou. Je suis content qu'il ait pris une personne humaine pour le faire. Puis l'apparence extraordinaire. Le petit docteur nazi, j'y crois. Chauve, tout est quitte. Parfait.
Faut parler de la réalisation du film maintenant parce que le projet Captain America était sur les rails depuis très longtemps et au départ, c'était supposé être un certain Nick Cassavetes, le fils du fameux John Cassavetes, réalisateur très connu dans le domaine américain. Ultimement, c'est lui qui était supposé avoir la réalisation de ce film-là, mais Cassavetes, ce qui est drôle, c'est que au départ, il y a bien des années, avait été embauché pour réaliser Iron Man. Et je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Il a changé vers Captain America puis finalement, il a laissé tomber le projet. Donc, Marvel sont allés chercher un choix extrêmement sécure pour bien manipuler ce personnage-là qui est destiné à de grandes choses pour la suite dans les autres films. Ultimement, ils sont allés chercher Joe Johnston, un bon vieux vétéran, un des grands amis de Steven Spielberg, qui n'est pas vraiment connu à la mise à l'écran d'autres héros ou de films d'action ou d'aventure. Tu sais, c'est lui au début des années 90 qui a réalisé Le Rocketeer.
Le Rocketeer, oui.
Après ça, il a réalisé Chérie, j'ai réduit les enfants, Jumanji, Jurassic Park 3, Hidalgo, The Wolfman, et aussi le très beau October Sky aussi. Pas un film d'action, un petit drame familial très bien fait qui nous fait croire en nous-mêmes. Un beau petit film. Donc, ils sont allés vraiment chercher un vétéran avec des mains sécures, tu sais, qui va te réaliser ton film de manière sécurisante et sans aucun problème. Puis moi, je trouve que c'est un beau move de Marvel parce que eux autres, pour leurs autres films précédents de la phase 1, sont allés chercher des gens qui n'étaient peut-être pas très familiers avec les films d'action. Ouais. Tu sais, pour Iron Man, ils sont allés chercher Jon Favreau qui avait réalisé quoi? Zathura puis Elf. Donc, quand même, c'est un bon move de donner. Ce que j'aime, c'est ça, pour finir mon point, c'est qu'ils sont allés chercher d'autres réalisateurs qui n'avaient pas nécessairement touché à ce genre-là, mais que, vu que c'est la première fois qu'ils l'essaient, ils amènent une espèce d'énergie qui fait en sorte qu'ils sont pas blasés comme des gens qui auraient toujours fait des films de super-héros ou des films d'action.
C'est ça. Puis quand tu dis ami de Spielberg, c'est que Joe Johnston a travaillé sur L'Arche perdue, le premier Indiana Jones.
Exactement. C'est lui qui avait, si je ne m'abuse, en fait, storyboardé quelques séquences d'action de Raiders of the Lost Ark, puis qui a travaillé subséquemment sur toutes les autres suites aussi.
Déjà, d'ailleurs, oscarisé pour les effets spéciaux de Lost Ark. C'est drôle parce qu'on voit des similitudes au courant du film entre, je trouve, entre Indiana Jones, le premier, et Captain America, le premier. Peut-être ça a rapport avec la réalisation de Joe Johnston. Ou peut-être c'est juste parce qu'il y a des nazis pis qu'ils s'intéressent à de la science. Mais bon, il y a des liens à faire.
Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est ça, moi, c'est un réalisateur. Si j'étais Marvel, je donne un film assez important à Johnston. Puis après ça, je peux partir en vacances puis je reviens 6 mois plus tard. Puis je sais que mon film va être super secure, qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est un choix très bien pensé pour ce genre d'affaires. Oui. Là, tu es un bon vétéran. La seule affaire qui me gosse dans ce film-là, puis ça m'avait sauté aux yeux quand je l'ai vu au cinéma, c'est que de scène en scène, Johnston a utilisé des caméras différentes. Oui. Il a utilisé une caméra bien normale, puis de scène en scène, ça change pour une caméra qui va donner une image HD, mais qui détonne avec les autres scènes où est-ce qu'elle n'est pas utilisée. Puis des fois, dans la même scène, il va avoir des plans différents filmés avec deux caméras différentes, la HD puis la régulière, puis ça m'a gossé l'œil en Blu-ray. Puis en DVD, c'est moins évident, on l'aperçoit, mais au cinéma, c'était comme « F***, branche-toi, Joe, ouais, quelle caméra tu veux, vierge? »
C'est comme si elle avait voulu faire certaines ressemblances avec un storyboard carrément de BD. Ce qu'on voit souvent, on va m'emmener une apparition où il y a 4 gros plans consécutifs de juste la face à Red Skull qui est l'air complètement méchant. Mais je voyais justement les petits frames de BD dans sa réalisation à l'occasion, qui avait voulu peut-être forcer l'apparence de BD. Peut-être que ça s'est arrivé, mais ça expliquerait des fois justement les changements de plans aussi drastiques sans qu'il y ait de lien entre, comme qu'on peut voir avec une BD, où est-ce que c'est frame par frame, et non tout truc assez fluide comme qu'on peut voir au cinéma habituellement.
Mais outre ça, bon, on encule des mouches, mais c'est ça, moi j'ai rien à dire sur la réalisation de Johnston, encore une fois, outre que les traits sécures, puis c'est un réalisateur expérimenté idéal pour ultimement faire ce genre de film-là, surtout que bon, pour revenir sur mon point, après ça, pour l'incroyable Hulk, Marvel avait choisi Louis Leterrier, qui lui, c'était un type derrière la réalisation, tu sais, des films avec Statham, genre The Transporter,
un gars un petit peu habitué
tué au film d'action, mais tu sais, pas nécessairement au film de super-héros. Après ça, il est allé chercher Kenneth Branagh pour Thor, un choix que j'ai adoré. Puis j'adore la réalisation de Kenneth Branagh dans ce film-là aussi, surtout qu'il avait été embauché pour dealer avec des personnages très shakespeariens, comme il y a dans les films de Thor, parce que lui, bon, ses premières réalisations à l'époque, c'était Henry V, c'était Hamlet, des affaires de même. Fait que c'était un bon gars. Puis tu sens qu'il s'est amusé dans ses scènes d'action, puis aussi donner une espèce d'univers de bande dessinée avec des plans inclinés un peu à la Batman 66, etc. Puis Johnston, lui, c'était le choix le plus sécur possible. Alors bon, tant mieux, réalisation, j'ai rien à dire de très négatif. Parlons de vétérans sécures aussi, ben, sont allés en chercher un pour la musique du film. Aussi, sont allés chercher Monsieur Alan Silvestri, compositeur que moi je considère comme un des 3-4 à Hollywood que sa musique, ça reflète vraiment le mot aventure. J'adore ses bandes sonores qu'il a fait, admettons, pour Back to the Future, Predator. J'adore aussi, bon, c'est un film de boîte, mais j'adore celle qu'il a fait aussi pour le film Van Helsing avec Hugh Jackman. Bref, c'est un gars qui comprend parfaitement c'est quoi faire une bande sonore de film d'aventure, puis c'était un des excellents choix qu'il pouvait faire. Puis d'ailleurs, Silvestri n'est pas inconnu au film de Marvel aussi, parce que c'est lui qui a fait la musique plus tard du premier Avengers, et c'est lui qui ont ramené pour faire Avengers Infinity War et Endgame, encore une fois. Donc, ils sont allés chercher quelqu'un qui connaît le tabac, qui est capable de nous faire de la musique héroïque pour un personnage tout à fait héroïque. Et ce First Avenger-là ne fait pas exception. Pour rentrer un peu plus loin dans le style de Silvestri, moi, je le reconnais beaucoup. Tu sais, genre, j'écoutais la bande sonore en travaillant hier, puis je remarquais des petits cues tirés, admettons, qu'on peut entendre dans sa bande sonore de Predator ou bien de Judge Dredd et tout ça. Voilà, moi, je l'ai trouvé très bien fait. Elle est pas si mémorable que ça, mais au moins, il a donné son thème musical à Captain America qui est utilisé dans tous les films.
Oh oui, que j'ai rien à dire. Ça prend pas trop de place, ça va pas venir te dicter l'émotion. Elle va juste être là pour t'accompagner, pour accompagner le héros. Le film est basé vraiment sur le héros plus que sur ce qui se passe autour du héros. Là. Puis pendant le film, par-dessus ça, souvent, t'as de la musique d'époque. Ça se passe des années 40. C'est le fun. T'as des spectacles, t'as ci, t'as ça. C'est vraiment là, tout, que ce soit la musique de lui ou toutes les autres musiques qui ont été créées à part pour le film qu'on entend en live, en diégétique. C'était, écoute, c'était Moi, j'ai rien à dire. Ça m'a transporté, c'était le fun. Je suis pas déçu.
Moi, ce que je remarque aussi, c'est en écoutant le thème de Captain America, moi, je remarque beaucoup de similitudes avec le thème d'Indiana Jones aussi. Mm. Je peux peut-être te faire écouter les ressemblances. Alors, à la maison, je vous fais écouter un petit comparatif entre le thème d'Alan Silvestri pour Captain America et la fameuse marche d'Indiana Jones. On écoute ça. Donc, chers auditeurs, voyez-vous les ressemblances comme moi? Eh bien, je vais vous laisser en tirer vos propres conclusions. Là, on va lâcher, encore une fois, un peu la post-production pour revenir littéralement dans le film, Philippe. Oui. Costume de Captain America, dans ce film-là, comment tu le trouves?
Ben écoute, on commence en partant. Le premier costume qu'on donne à Captain America, clin d'œil, évidemment, au premier costume du premier comic book 1940, c'est exactement le même suit. Stripe pour stripe, les petites ailes en haut. C'est pas un suit de combat, c'est un suit de spectacle, sauf dans le comic book, évidemment, c'est pour le combat. Mais on est fidèle à l'époque. Il y a pas de spandex, ça existe pas. Il y a pas d'armurage trop, là. Il est pas rendu là, c'est un optique de spectacle.
Avec ses grosses bottes de pirates,
écoute,
puis les gants
rouges.
Écoute,
ça a l'air du coton, je sais pas trop quoi, comme tissu. Ça a l'air extrêmement inconfortable. Chris Evans réussit quand même à avoir de l'air bâti là-dedans. Je vous rappelle, il y a rien de moulant. Ça n'existait pas à l'époque. Ils sont allés avec les tissus de l'époque, 1942, en effort de guerre en plus. Fait que vraiment pour ça, là, c'est là qu'on voit le physique de Chris Evans. Vraiment, là, réussir à avoir l'air bâti dans un suit aussi lousse.
quel bel effort. Ouais.
Avec le bouclier. Là, le bouclier qui est pas rond encore, qui était le premier prototype du bouclier de Captain America. D'ailleurs, ce comic book-là, juste dans deux petites secondes des costumes, la couverture du Captain America numéro 1 en 1940 apparaît dans le film.
Oh oui.
On peut le voir quand que les jeunes lisent des comic books de Captain America, quand il commence à avoir sa popularité, c'est la pochette du Captain America volume 1 de 1940. Petit clin d'œil ici à l'ordre, à l'article original, mais pour poursuivre avec le costume, par la suite, c'est là que lui a des idées pour son propre costume lorsqu'on lui donne les moyens, puis que évidemment le père de Mr. Tony Stark travaille sur un nouveau genre de textile pour pouvoir l'aider, puis là on découvre un peu plus armuré, un peu plus moulant, l'apparition du fameux bouclier rond en vibranium. Bon, il n'avait pas découvert Wakanda encore, on avait tout ce qu'on avait, c'était ce petit morceau là de vibranium qui a fait un bouclier avec en rond.
Et quel symbole ça aussi. Hein?
Oui. Give this man a shield.
Yes, excellent. Il a l'air tellement confortable son costume à Captain America, je veux dire celui qui porte vers la fin du film, oui. Celui l'espèce de suit, comme on dit, un peu plus tactique de combat avec les stripes et tout ça. Puis il a pas l'air anachronique non plus, tu sais, il est pas fait d'un matériau, tu sais, qui sort vraiment des années 2000 et tout ça, juste pour donner un facteur wow à l'écran. On sent qu'il appartient vraiment à son époque, outre les couleurs un peu plus symboliques du personnage, parce qu'encore une fois, même s'il est sur le front, Steve Rogers est probablement arrivé avec ces idées-là pour conserver un peu son apparence de symbole. De mascotte, si on veut, d'inspiration et tout ça. Donc, c'est probablement pour ça qu'il n'a pas dit « mets-moi ça en couleur de camouflage ». Non, il a dit « mets-moi le drapeau américain sous le corps, bleu, blanc, rouge, avec les petites ailes de liberté » puis tout ça. Donc,
non, les ailes ont pris le bord, par exemple. Les petites ailes ont pris le bord.
Mais en fait, elles sont plus peintes sur le côté.
Source, exactement, parce que là, les petites ailes blanches qui dépassaient, là, c'était un petit peu trop. Là.
Exactement.
Mais non, mais c'est ça que j'aime, justement, c'est l'apparence générale.
C'est ça, c'est pas cucu.
Non, ils te l'ont modernisé, mais en restant fidèle à une époque, à une moyen des années 40, c'est ça qui est assez spécial. J'aime encore plus l'évolution des costumes à chaque film que Captain America qui va suivre, mais bon.
Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que, Philippe, on va y aller avec un petit jeu interactif. T'as parlé des autres costumes qui vont suivre des années plus tard dans chacun des autres films dans lesquels Captain America est impliqué. Eh bien, je vais t'inviter à me dire quel est ton préféré. Dans tout ça, je t'ai préparé ici un petit visuel avec tous les costumes que Chris Evans a portés. Alors, on va en parler un petit peu à la maison. Je vais vous faire des petites descriptions. Et Philippe, tu vas me dire lequel tu préfères. Es-tu prêt?
Oui.
OK, First Avengers, celui dont on parle, bleu, oui. blanc, rouge, le suit tactique qui a l'air comme... Il a l'air d'avoir de la place là-dedans.
Le
c'est
classique.
Ça qui est bien.
T'as pas le goût de le rencontrer dans le bois que ta gang. Tu sais que c'est le classique. C'est, ça veut tout dire. C'est le soldat, super soldat, qui représente son pays. Représente la liberté.
On va faire un saut d'un an en 2012 maintenant avec Avengers, de quoi il a l'air. Là, je commence à avoir des réserves déjà sur ce costume-là, parce que ce costume-là, on dirait que il est littéralement conçu pour plus avoir l'air d'un costume tiré d'une bande dessinée, et il a pas l'air très adapté à la réalité, il a pas l'air très adapté au combat. Chris Evans a l'air serré comme ça se peut pas là-dedans.
Exactement.
Mais j'ai ma théorie là-dessus, parce que tu te souviens dans The Avengers, le premier film, celui qui présente ce costume-là, ce modèle à Captain America, c'est l'agent Coulson. Coulson lui dit « Je suis un grand fan de toi, j'ai tes cartes de collection. » Et si tu remarques, le costume est fait exactement selon de quoi a l'air Captain America sur sa carte de collection. Fait que je pense que c'est un costume fait par un fanboy.
Oui, parce qu'il y a une petite phrase à un moment donné, quelque part justement, quand John Coulson le dit, qui a designé le costume pour pouvoir être le plus fidèle à ce qu'il y avait en tant que tel. Parce que le premier saut, quand il part à la guerre, qui est extraordinaire, on le voit pas sur ses cartes promotionnelles. Ça, c'est des articles promotionnels qu'on avait vus ou qui étaient disponibles aux États-Unis quand il était uniquement un puppet boy, quelqu'un qu'on envoyait pour faire le spectacle, support des troupes ou quoi que ce soit.
Oui, une mascotte de propagande, littéralement.
Quand il est devenu vraiment militaire, les cartes ont arrêté. Là, c'était sérieux. C'était top secret, puis c'était armé avant tout.
On fait un saut de quelques années maintenant avec The Winter Soldier. Ça, c'est le fameux saut qui est complètement différent, qui porte quand il est vraiment un agent du SHIELD. C'est-à-dire, le costume, le bleu-blanc-rouge a complètement disparu. Maintenant, c'est un costume assez moulant, mais qui a l'air très tactique aussi, un peu comme l'était le premier. Il est en bleu marin au complet. L'étoile est bien au centre de la poitrine. Et il y a des lignes horizontales de chaque côté de l'étoile qui passent à travers la poitrine et les bras. Moi, c'est drôle, je l'aime beaucoup. Oui. Avec la ceinture brune, les gants bruns. Je trouve que ça fait très tactique, ça fait très camouflage. Et tu le sens qu'on est dans une époque un peu plus sérieuse du Captain America maintenant.
Exactement.
Moi, je le trouve très, très bien. Ensuite, on fait un saut vers Avengers Age of Ultron. Encore une fois, là, le bleu, blanc, rouge est de retour, puis je trouve que c'est un mix du costume qu'il a dans Winter Soldier et, bon, de toutes les couleurs qu'il y a dans le premier suit de First Avenger, justement. Moi, je le trouve très bien.
Oui.
La seule différence, c'est que autour des étoiles, il y a l'air d'avoir des petites lignes rouges qui entourent les branches de l'étoile, mais tout est là, les straps brunes sont là aussi, donc c'est quand même un beau costume qui est très représentatif puis qui a l'air beaucoup plus tactique, qui a l'air beaucoup plus utile au combat que celui, le premier dans The Avengers.
Non, j'étais même content de le voir manger une volée avec, par lui-même.
Oui, c'est ça. Belle catharsis.
Ah oui, mais non, son costume évolue très bien de film en film.
Exactement.
Oui.
Par la suite, on a droit à une petite variation avec Captain America Civil War. C'est pas mal exactement le même modèle que celui qu'il a dans l'autre film d'avant, dans Ultron. La seule petite variation que je vois, c'est les lignes autour des branches des étoiles, les lignes rouges ne sont plus là maintenant. Ouais. On est vraiment dans le bleu total au niveau de la poitrine. Il est très beau. Un merveilleux mélange d'hommage au costume original des BD et de modernisme. C'est parfait. Après ça, on va aller dans des changements qui commencent à devenir radicaux. On s'en va dans Avengers Infinity War, où est-ce que là, le costume, il a changé. Ultimement, c'est à peu près le même costume qu'il a dans Civil War, mais il est délavé maintenant.
Exactement.
Et l'étoile, on dirait qu'elle a été arrachée. Il y a juste un spot noir qui est là. Là, parce que ça représente un peu l'état de Captain America. Là, c'est un soldat sans patrie maintenant. C'est un fugitif. Et aussi, les manches sont relevées. Là, les avant-bras, on les voit bien, etc. Donc, c'est une autre version de Captain America.
La barbe, les cheveux, plus de masque.
Oui,
ouais.
Tout à fait. Maintenant, un fugitif.
Je voulais savoir, c'est lui, mon préféré des costumes. Pas juste pour le costume, pour la signification
la raison,
totale. Ce gars-là, c'est carrément fait trahir par son propre pays. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est justement d'agir libre. Parce qu'il est le seul qui sait exactement comment pouvoir bien agir. On lui a enlevé en lui disant « Tes idéaux sont plus bons, t'es une menace. » Il sait « Non, je vais continuer à faire mes petites affaires. Je vais continuer à sauver le monde. » À ma façon. Puis non, pour moi, c'est cette époque-là. C'est arrivé là, après Civil War, la cassure. C'est là que j'embarque. On sait dans quelle gang j'aurais été, disons.
Écoute, moi, j'imagine une scène formidable dans, admettons, Infinity War, où est-ce que tu le vois, il est dans sa chambre, il regarde le costume, puis il pogne un couteau, puis il arrache l'étoile, il y a des coups carrément. Je ne crois plus en ça. Vous m'avez perdu, l'Amérique, c'est plus en quoi je crois. Puis il met maintenant une faux avec un marteau, puis il devient communiste. Quelque chose de genre. On termine
on
en beauté.
On pas trop.
On termine en beauté avec le dernier costume en lice, celui d'Avenger Endgame. Où est-ce que là, on revient plutôt à un design moderne. L'étoile, elle est de retour. Le bleu, blanc, rouge, clair, il est de retour. Et moi, ce que j'aime, il y a une petite variation. Sur le plastron puis les épaules, on voit une espèce de motif en forme d'écaille. Oui. Captain America, pendant très longtemps, a eu ces écailles-là en bande dessinée oui. sur son costume. Alors, on revient à cette belle hommage au passé du costume du héros, tout en ayant un mélange de toutes les manières qu'on l'a vu au cinéma. Tous les accessoires sont là, dans sa forme ultime. Il est très beau, je trouve. C'est temps de dévier maintenant un peu du film d'aujourd'hui. On peut peut-être y aller dans la portion peut-être un peu plus débat. Il y a eu une trilogie de Captain America avec oui. Winter Soldier qui a suivi et Civil War. Moi, j'ai remarqué, puis toi aussi, tu l'as remarqué, évidemment, que ces deux autres films-là sont de loin supérieurs oui. à cet original-là, réalisé par Joe Johnston. T'as-tu une couple de raisons, toi, de ton cru, qui font en sorte que ben ça a donné des produits supérieurs à l'original? Parce que d'habitude, encore une fois, selon les croyances, l'original dans une trilogie de films, c'est toujours le meilleur.
Exactement.
Les deux autres sont supposés décliner en qualité.
Oui.
Pourquoi, avec Captain America, c'est complètement le contraire, selon toi?
C'est ce qui arrive dans ces choses-là. Tu sais, les films de super-héros, veux pas, t'as énormément de background. T'as énormément de gens qui connaissent déjà l'histoire. T'as énormément de variantes de ces histoires-là qui sont possibles. Donc, quand tu pars un premier film, malheureusement, t'as pas le choix. Faut que tu partes avec l'histoire, l'origine. L'origine est souvent connue de tout le monde. Ça peut devenir un peu lent, un peu long, un peu redondant. Ou des fois, tu te penses, tu le connais pas, mais finalement, à mesure que tu vois l'origine, tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'était comme si c'était comme ça. Puis quand on part ensuite avec Winter Soldier, là, on part vraiment dans le vif du sujet, les missions, les histoires personnelles, l'arche du personnage. Mais faut passer nécessairement par l'origine. C'est ce que j'aime, par contre, de ce que Marvel a fait, si on peut comparer avec Spider-Man Homecoming.
Okay.
Ils ont décidé, le MCU a réussi à ravoir les droits temporaires de Spider-Man. Ils l'ont dit, on n'ira pas faire un film d'origine pour Spider-Man. Ça va ralentir le processus. Vous la connaissez. Il y a déjà eu 2-3 films d'origine sur Spider-Man déjà. Ils ont évité ça. Mais au départ, pour setter le premier Avengers, il fallait l'origine de chacun. D'après moi, la meilleure origine de Iron Man. Parce que ce film-là est supérieur à ses deux prochains. Tandis que Captain America, c'est le contraire. On se l'explique mal, oui, mais c'est clair que la réalisation à venir des deux prochains films a joué dans la balance. Les frères Rousseau ont fait, tant qu'à moi, ont fait l'impossible. Allier tous ces personnages-là ensemble, c'est là que ça a vraiment commencé. Quand on arrive avec Winter Soldier, on a déjà à l'écran 5-6 super-héros en même temps. On n'avait pas vu ça depuis Avengers. Là, on comprend que c'est plus juste dans les films de rassemblement que ça va arriver, mais que ça va arriver peut-être à chaque film. Les frères Rousseau l'ont tellement bien fait qu'on leur a demandé de faire Civil War. Civil War, à un moment donné, on a 12-13 en même temps. Chacun a son moment fort. Puis même la plupart l'ont en même temps à l'écran, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Tu regardes ce qui a été fait avec X-Men ou ce que c'est quasiment un jeu vidéo. Là. Chacun son move un après l'autre. Peu d'interaction, peu de travail d'équipe concret. C'est ce qu'on voit arriver avec Winter Soldier dès les premières scènes de combat où ce que Black Widow avec le personnage que je parle le nom, mais joué par l'acteur, le Griot, qu'on apprend plus tard, qui est un gars de Idol.
Crossbones.
Ouais, Crossbones, c'est ça. J'ai juste Griot tout le temps.
Frank Griot!
Je trouve que son nom de famille est extraordinaire.
Je suis extrêmement d'accord avec toi. Puis moi, les points que j'avais notés, c'est pas mal exactement les mêmes que toi. Ben, en premier, c'est que autant dans Winter Soldier que dans Civil War, le focus est un peu moins sur Captain America, parce que là, il fait équipe avec d'autres personnages maintenant. Je prends juste, par exemple, le carcan de Winter Soldier, où est-ce que là, il y a Black Widow qui se joint à lui. Il y a aussi le Falcon qui se joint à lui aussi. Fait que là, ça nous donne une pluralité de personnages. Où est-ce qu'on peut le voir interagir? Où est-ce qu'on voit son personnage Steve Rogers commencer à changer un peu? Parce que là, il est en processus d'adaptation vers le monde moderne maintenant. C'est plus le Boy Scout en 2D maintenant. C'est un personnage qui doit utiliser ses forces pour apprendre à survivre. Non pas seulement genre dans ses combats avec d'autres méchants et ses aventures, mais aussi une adaptation pour survivre dans le monde dans lequel il est pogné maintenant et qui doit faire son mieux.
Faut qu'il découvre ce monde-là, veut pas...
Exactement, puis avec ça, si tu remarques également, le même processus est employé dans Civil War. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que le focus se détache parfois de Captain America pour revenir à la fin quand Captain America doit être à son plus héroïque pour sauver la journée. Oui. Donc, on le suit pas toujours à chaque scène, mais quand c'est important de l'avoir, on l'a et sous son meilleur jour. C'est ça qui nous le fait apprécier. Fait que juste qu'on lâche un petit peu, parce qu'encore une fois, l'origine, comme tu le mentionnais, elle est établie, le passage obligé, il est passé. Donc là, maintenant, on peut se tourner vers le développement de ce personnage-là.
Oh oui. Oh oui, puis le développement se fait très bien. Juste dans Winter Soldier, si je peux me permettre, on apprend assez vite que Captain America va toujours rester fidèle à ses valeurs qu'on apprend dans le First Avenger. Quand Nick Fury, il est poursuivi de partout, il est sur le bord de se faire tuer, il a une confiance en une seule personne. Il va chez Steve Rogers. Puis ensuite, la Black Widow puis d'autres, ils demandent pourquoi vous êtes pas venu nous voir, pourquoi vous ne l'avez pas dit. Il a dit, parce que je savais pas à qui faire confiance. Mais il savait qu'il y avait une seule personne à qui pouvoir avoir confiance. The Ultimate Soldier.
En fait, faire le pont avec ce que tu dis, c'est tout simplement, les histoires sont meilleur aussi. Encore une fois, je reprends oui. Winter Soldier. C'est là où Marvel a commencé à s'amuser. Maintenant, les histoires d'origine, elles étaient passées, elles étaient faites, elles étaient établies. Maintenant, on pouvait s'amuser, c'est-à-dire prendre ce personnage-là, Captain America, et le mettre dans un autre carcan d'histoire. Winter Soldier, c'est pas mal un thriller politique aussi, parce que là, on y va vraiment dans les conspirations gouvernementales avec le SHIELD qui est ultimement Hydra et tout ça, et Captain America qui doit naviguer à travers tout ça pour sauver la journée de certaines menaces qui viennent littéralement de l'intérieur de son propre gouvernement là.
Et sans oublier le retour d'Armin Zola. Hein? Armin qui revient en ordinateur.
Nous sommes tous les deux des êtres à l'extérieur du temps, capitaine.
Oh, oui. Ah.
Donc, les histoires sont meilleures, puis encore une fois, mon dernier point, la réalisation. Maintenant, deux têtes valent mieux qu'une, comme on dit, les frères Russo. Encore une fois, c'est des gens de comédie, c'était les gars derrière, dans le fond, Arrested Development, puis là, ils arrivent, ils se sont prouvés comme des réalisateurs d'action fantastiques. Moi, quand je regarde leur scène de combat, je pense à la fameuse, dans Winter Soldier, dans l'ascenseur, ou bien dans Civil War, les fameuses scènes de combat avec Bucky, tout ça. Ben, ultimement, c'est ça, j'ai l'impression de regarder des scènes d'action filmées par Michael Mann, où tu sais ce qui se passe, c'est spectaculaire et tout ça. Donc, ces gars-là, comme tu dis, ont réalisé l'impossible. Oui. Ils sont amusés, ils ont fait un travail absolument admirable. Et c'est dans ces mains-là qu'ont été données les destinées de Captain America au cinéma et plus encore de tous les Avengers aussi. Voilà, ça a donné un jumpstart nécessaire à ce personnage-là. Il y a eu une prise de risque qui n'avait pas été prise avec le film original, parce qu'on a sorti ce personnage-là, Captain America, de sa zone de confort. On l'a confronté à son passé, à des traumatismes du passé qui reviennent. C'est-à-dire Bucky qui n'est pas mort, mais qui revient comme un ennemi. Alors là, il faut que tu fasses des choix moraux, des décisions, des affaires de même. Fait qu'on te l'a fucké solide, Captain America. Oui, c'est là où est-ce que sa valeur a été prouvée.
Exact, mais il a toujours resté fidèle.
C'est ça, exactement.
Bucky. Peu exactement. Importe, il savait qu'il y avait de quoi.
Je suis avec toi jusqu'à la fin, c'est ça?
Exactement. Puis tu vois, pour revenir encore sur la réalisation, quand tu parlais tantôt, parce que les deux scénaristes de First Avengers, c'est aussi les deux scénaristes des deux prochains, Captain America et des deux derniers Avengers. Quand tu parlais que le First Avenger avait un peu moins d'humour que ce qu'on a retrouvé dans les autres films de Captain America ou dans les films des Avengers, c'est justement l'arrivée des frères Russo a peut-être déloussé un peu l'écriture de Mick Foley puis de l'autre que j'oublie son nom, Marcus. On le voit, puis l'apparition, l'arrivée dès le début du film, de Falcon, qui est pas encore Falcon, qui est juste le personnage militaire qui travaille dans les bureaux malgré lui, en tant que tel, apporte un petit côté plus léger à Captain America dès le début, là, on your left. Enfin, qui se fait un ami, il veut pas, ça va changer beaucoup de choses au courant de l'avenir des deux autres films.
Fait que ça a été un beau mariage de bons scénaristes puis des réalisateurs qui proviennent de l'humour, puis ça a donné un nouveau carcan dans lequel travailler, qui a beaucoup touché, d'après moi, les spectateurs, moi, toi, puis qui nous a fait se ramener au cinéma pour voir la suite de ce personnage-là. Parce que quand je suis allé le soir voir avec un de mes potes Winter Soldier, j'étais comme, man, ça va-tu me donner quelque chose de plus plate encore que le First Avenger? Puis non, j'ai été complètement tombé en bas de ma chaise. Wow. Ça a changé la game complètement.
Puis c'est là que tu fais l'exercice. C'est ce que j'ai fait dans le fond. C'est que j'avais pas aimé le First Avenger quand je l'avais vu la première fois. Je l'avais même arrêté, je l'avais pas continué. Plus tard, j'ai vu les Avengers, j'ai vu les trucs. Là, je suis allé directement aller voir Civil War. Donc ensuite, je suis allé voir Winter Soldier. Je suis allé à reculons. J'ai tellement apprécié First Avenger après avoir compris puis vu Winter Soldier puis Civil War puis les Avengers que j'ai compris ce qu'ils voulaient faire avec cette origine-là au départ. Ça a été un peu un long processus pour moi. J'espère que ça va être moins long pour vous parce qu'il faut vraiment, vraiment redécouvrir ce film-là. C'est vraiment ça. C'est les petites graines qui se font pousser plus que dans les autres films d'origine pour arriver à ce qu'on arrive éventuellement avec les Avengers, Infinity War et Endgame. La moitié des paroles, des interactions entre Captain America qu'il y a soit avec Bucky, avec Peggy ou avec même Red Skull vont se retrouver à travers tout le reste de la saga complète.
On découvre le grand portrait global de tout ça. C'est assez gigantesque ce qui a été fait là-dedans.
Juste d'utiliser le Tesseract en partant.
C'est ça.
Veux pas, ça rejoint quoi? Ça rejoint Thor, ça rejoint...
Ah, il y en a plein. Je pense que c'est la pierre d'Infinity qui s'est promenée le plus dans ces films-là, parce que regarde, vite de même, il est là effectivement dans First Avenger, dans Captain Marvel, dans Thor, dans Avengers le premier, etc. Puis un paquet d'autres. Donc, ça s'est promené, ça crée... Tu te sens VIP en voyant
pas
ça.
Pas juste ça, dans Endgame, quand c'est le Tesseract, c'est la pierre qui ont de la misère à retrouver, là, qui se pousse avec. Ils reviennent dans le temps pour une autre version du Tesseract. Là, à ce moment-là, ce que Pym puis Stark étaient là les deux en même temps.
Ils sont allés
travailler
chercher
sur leur projet.
Exactement. Puis cette version-là, années 70 du Tesseract, on le voit à la fin de First Avenger, où est-ce que tu vois le jeune Howard Stark qui s'en va le récupérer dans un sous-marin, dans les fonds marins, où est-ce qu'il était tombé. Fait qu'encore une fois, je comprends plus effectivement le portrait global maintenant. Avec la sortie de Avengers Endgame, eh bien, il y a deux héros qui ont accroché leur costume, littéralement, dont notre ami Capitaine America. Alors, Chris Evans, ben, ultimement, son contrat a été échu et a décidé de se tourner vers autre chose dans sa carrière. Notamment, il veut passer à la réalisation maintenant de films, etc. On peut pas le blâmer. Il a envie d'essayer autre chose. Pourquoi pas?
Il y a une bonne run. 7-8 films, dans le fond.
Exactement.
Avec Marvel.
Fait que ça m'amène par rapport à ça, à te demander, selon toi, ben, quel héritage laisse Chris Evans à ce personnage dans l'univers cinématographique de Marvel?
À travers les films, je ne sais pas comment ça va se passer. On sait déjà qu'à travers les prochaines séries télé qui vont être créées par Disney, il va avoir une influence certaine. À la fin du film, donne son, ben, la fin Endgame, donne son bouclier à Falcon. Donc, on a un nouveau Captain America. Est-ce qu'il va s'appeler Captain America? Non. Ça va demeurer Falcon. Est-ce que Falcon va changer son suit? Oui, j'ai vu des premières images déjà de ce qui va arriver avec la série télé qui est Falcon et Winter Soldier.
Exactement, oui.
Donc, les deux vont être ensemble. Donc, qu'on a vu un peu dans Winter Soldier au début du film, des enquêtes comme ça, puis aller faire des missions, ça va être ça en tant que tel. Zemo va revenir. La fille Peggy Carter revient aussi.
Agent 13, quelque chose de genre.
Exactement. Puis le suit Falcon a maintenant un suit stripé bleu, blanc, rouge.
Parfait, parce que dans les bandes dessinées, c'est comme ça aussi.
Exactement.
Enfin, le mandat a été passé de Steve Rogers à notre ami le Falcon, justement.
C'est,
puis c'est tout à fait normal. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
On va voir aussi comment Winter Soldier réagit à tout ça, étant l'ami d'enfance. Ça avait peut-être voulu prendre le bouclier puis continuer. Mais en même temps, je pense qu'il a travaillé beaucoup sur lui-même à Wakanda. Puis qu'il a réalisé bien des choses, notamment qu'il n'est pas tout à fait encore stable à 100%, je crois. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont parler de tout ça dans la série. Fait que c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de références au Captain America dans cette série-là.
Moi, je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis. Je peux peut-être parler de Chris Evans, l'acteur.
Oui.
Qu'est-ce qu'il nous laisse? Quel est l'héritage qu'il laisse par rapport à son interprétation de ce personnage-là iconique qui maintenant a pris sa retraite cinématographique, si on veut? Moi, je pense qu'à travers toutes les années, personne s'est plaint de son interprétation, tu sais. Personne s'est plaint de la qualité de son jeu, tu sais. L'exemple qui me vient en tête, c'est Hayden Christensen avec son interprétation d'Anakin Skywalker.
Oh, non, pas ça.
Tout le monde sacrait là-dessus.
Je
c'était
continue.
Comme.
Continue.
Tout le monde sacrait. En tout cas, il n'y a jamais eu ça avec Chris Evans. Ouais. Disant, ben, qu'il retourne étudier, c'est un mauvais acteur, blablabla, je crois pas à son jeu. Ça a très bien passé.
Écoute, j'y croyais de plus en plus dès les premières. Moi, j'ai toujours cru. J'ai toujours cru voir Steve Rogers en voyant la façon que Chris Evans le jouait, ce personnage-là. Pour moi, Chris Evans est Captain America. Captain America est Chris Evans. Ça ne changera pas. S'il me ramène un nouveau Captain America, je m'excuse, je vais avoir de la misère embarquée. Je suis vendu totalement à Chris Evans.
Oui.
Il a le physique de l'emploi, il a la gueule de l'emploi, il a la voix. Non, j'ai adoré, complètement adoré. Pour moi, c'est lui.
Tu savais-tu en 2010, quand il était dans le processus de casting pour le rôle, sais-tu qui étaient les autres personnes qui étaient considérées?
Il y avait John Krasinski.
Oui, exactement.
Il y avait John Krasinski. J'ai vu justement une entrevue avec lui. C'est au Graham Norton Show, un truc britannique. Puis il expliquait pourquoi que lui-même avait décidé de pas continuer avec le processus. Il avait fait l'entrevue, il avait le saut. Puis dans le couloir est arrivé Chris Hemsworth en bédaine qui venait auditionner pour Thor. John Krasinski s'est dit « Je ne suis pas un super-héros à comparer à ces gars-là. »
Je veux pas passer toute ma vie au
c'est
gym,
ça.
C'est
il
ça?
A fait, c'est exactement. Il a fait l'audition parce qu'il voulait le faire une fois dans sa vie parce que c'est un fan de super-héros. Mais c'est... Merci. Ben, Chris Hemsworth aussi avait fait... avant Thor, avait fait l'audition pour Captain America.
Ah, c'est bien possible.
Ouais, mais
curieux. Si l'autre personne qui était dans les trois finalistes, oui, c'était aussi l'acteur, je sais pas si tu te souviens, il était très populaire au début des années 2000, Ryan Phillippe.
Oui, oui, oui.
L'ancien mari de Reese Witherspoon, lui aussi était dans les finalistes pour ça, mais finalement, ça a été Chris Hemsworth qui a voyagé entre deux mondes parce que...
C'est moi qui te mélange.
C'est ça, arrête de me parler de ce bel homme aussi. Donc aussi, c'est ça parce que Chris Evans n'était pas à sa première interprétation d'un héros de Marvel. Il venait de boucler deux films de Fantastic Four où est-ce qu'il jouait Johnny Storm, oui, la torche humaine et tout ça. Il a pu ramener ce genre de bagage-là au niveau de la préparation physique pour ramener ça dans sa routine pour devenir Captain America. Parce qu'ultimement, ce qui est drôle, c'est, je sais pas si tu as vu les films à l'époque des Fantastic Four aussi, mais Evans s'était mis en shape incroyable tellement que quand tu le vois dans son petit costume de Fantastic Four moulant, écoute, ça fait devenir n'importe quel homme bien normal, un peu bicurieux. C'est ça qui est assez incroyable. Puis après ça, il y a eu d'autres trends parce que d'autres acteurs ont commencé à jouer d'autres héros de bandes dessinées. Tu sais, je pense maintenant, il y a du monde qui en font trois maintenant. Tu sais, Josh Brolin, genre, il a fait quoi? Thanos, Cable, puis Jonah Hex à l'époque. Ouais. Fait que tu sais, ça devient une trend parce que je pense que Chris Evans, c'était un des premiers à faire ça. On parlait du physique. Ben écoute, il s'est donné à fond pour atteindre une condition physique absolument optimale pour ce personnage-là qui nous fait croire qu'effectivement, ce nouveau super sérum existe. Puis les réalisateurs ne sont pas privés de montrer son physique. D'ailleurs, je pense à Johnston avec cette fameuse révélation quand la capsule s'ouvre. Oui, hein? Est-ce que c'est super beefcake ou bien dans Civil War quand il retient un hélicoptère avec sa main ou est-ce que le gros shot sur le biceps? C'est merveilleux. Fait qu'il a fait des efforts absolument incroyables dans le gym pour nous faire croire que Steve Rogers était injecté de ce sérum-là qui décuple les capacités physiques et la musculature. J'en parlais tantôt aussi, très belle chimie avec Hayley Atwell qui joue Peggy Carter, j'y crois, à leur romance. Oui. Très tragique, mais qui se termine très bien à la longue.
Puis tout le long des films qui vont suivre, là, la chimie avec Robert Downey Jr., l'amour-haine, tout l'amour direct puis véritable d'amitié avec Falcon, c'est Jean-Bart. Puis écoute, Endgame, on l'a vu ensemble, Endgame. Je m'excuse, c'est vraiment une performance d'acteur très, très forte de Chris Evans. On croit à chacune de ses émotions pour de vrai. Quand même, je me suis laissé transporter par son jeu d'acteur pendant le film. Je parle pas d'Oscar, là, mais quand même, c'est vraiment une performance d'acteur, plus que de faire un simple super-héros.
Qui nous a fait croire que Captain America existait pour vrai, c'est ça qui...
C'est pas merveilleux. Puis c'est drôle parce que quand tu parlais tantôt de qui avait auditionné pour ça, tu me parles de John Krasinski, puis après tu me parles de Fantastic Four. Je sais pas si t'avais entendu cette rumeur, qui est pas si folle que ça,
apparemment.
C'est
considéré pour jouer Reed Richards, c'est
pas
ça?
Pas juste considéré pour jouer Reed Richards dans les Fantastic Four, mais d'écrire et de réaliser Fantastic Four reboot au complet avec sa femme qui ferait Invisible Woman. Donc le duo venait de nous a fait un film dernièrement, un peu d'épouvante suspense. Là, ils ont été approchés. John Krasinski n'a toujours pas démenti la nouvelle. Il n'a pas dit que c'était pas vrai. Il a toujours dit qu'il était intéressé à faire des trucs de super-héros. Fox vient de vendre. Fait qu'ils viennent d'acquérir les trucs de Fox. On parle de développer des produits, ça va pas d'après moi de 2022-2023 avant qu'on puisse voir quelque chose qui vient de la famille Fox, que ce soit les X-Men Fantastic Four. On a plus de chances d'après moi de voir des personnages secondaires, surtout du niveau des vilains. Quand t'as la chance d'avoir un personnage aussi complet comme Doctor Doom maintenant dans ta famille de vilains, tout aussi bien l'utiliser le plus vite possible. En plus qu'on sait qu'il y a déjà eu des interactions entre lui puis Spider-Man ou avec d'autres héros.
Il y a pas aussi Sony qui a développé Venom aussi, puis les films de Spider-Man qu'on voit les deux derniers, ben c'est Sony qui prête à Marvel le personnage. Fait que écoute, ramène-moi ça tout ensemble, puis ça pourrait être intéressant. Tout est possible, c'est juste l'imagination qu'il faut absolument qu'elle se fasse aller. Puis elle n'a pas de limite.
Non, c'est ça. Puis nous, moi personnellement, je vais continuer à me faire bercer cette imagination-là par les films de Marvel pendant encore de nombreuses années, puis je suis extrêmement satisfait.
Merveilleux. Est-ce que tu recommandes Captain America The First Avenger? Si oui, pourquoi?
Je le recommande fortement pour comprendre ce qui va se passer avec le personnage du Captain America. Mais si vous voulez uniquement savoir ce qui va se passer avec les deux derniers Avengers, soit Infinity War et Endgame, étant donné que c'est vraiment the talk of the planet, même plus le talk of the town, c'est le talk of the planet. Oui, il y a 23 films à voir, 22 dans le fond, voir avant de voir ces deux films-là. C'est très utile de les voir avant pour comprendre toutes les intrigues. Est-ce que Captain America First Avenger fait partie d'un must-see pour comprendre ce qui va se passer dans les deux derniers Avengers? Je ne crois pas. on peut directement aller à Winter Soldier et Civil War qui sont des musts. Quelqu'un peut te conter ce qui s'est passé avec First Avenger.
Moi, de mon côté, si je recommande ce film-là, oui, c'est un passage obligé. C'est pas un film que je recommanderais juste pour dire, regarde, t'as rien à faire un samedi soir, Captain America, First Avenger, tu vas avoir bien du fun. J'en recommanderais bien d'autres avant ça. C'est juste que si tu veux comprendre d'où vient le personnage, mm-hmm, puis les petits pépites qui ont été mis qui vont payer plus tard au niveau de scénarisation. Ouais. Oui, vas-y, mais encore une fois, moi, je serais plus enclin à dire aux gens, regarde, il y a un montage de 8 minutes sur YouTube qui te montre les meilleurs moments de First Avenger. Regarde ça, puis commence tout de suite à, ouais, Winter Soldier, parce que tu vas arriver avec un meilleur film, avec un ton complètement différent, des enjeux différents, parce que là, tu vois Captain America vraiment sous son vrai jour.
Exactement.
Et voilà, j'ai là pour ça.
Tu vois le premier Avenger aussi, avant de voir Winter Soldier.
Oh oui, bien sûr, en effet. Puis de toute façon, même que dans le premier Avenger, il y a même un petit flashback. Back, la première fois où tu le vois boxer dans le gymnase, parce que tu vois, il est servi dans la guerre, il a été trouvé dans la glace, il a été défrosté.
Exact.
C'est juste ça que t'as besoin de savoir.
Exact,
t'sais.
Parce qu'on, dans le fond, on est d'accord sur la façon qu'on devrait vraiment recommander ce film-là. C'est écoute-les pour le milieu. C'est l'action que t'as dans le milieu de First Avenger. C'est là que tu vois Captain America se créer, c'est là que tu le vois arriver. Le début peut être un peu long, avec le chétif qui devient gonflé, puis la fin un peu, on dirait qu'il manque de quelque chose, il manque des éléments, mais le milieu vaut la peine. On a un beau milieu de film ici, de la belle musique, des beaux combats, des vraiment belles séquences de combats, une belle équipe, des beuveries. C'est non, on a un peu de tout.
Et une très belle aléatoire,
ah,
bien
ben
sûr.
Ah ben oui, aléatoire, sans oublier, sans oublier. D'ailleurs, il y a aussi également une autre femme blonde, secrétaire de Robert Stark, je crois, un moment donné, quand il arrive. C'est
la fille de Game of Thrones, c'est ça, Nathalie Dormer. Oui, effectivement, j'ai reconnu aussi, je fais « Hey, ça fait le Game of Thrones! » C'est très amusant. Phil, on a presque terminé pour aujourd'hui, mais je peux pas vraiment te laisser aller sans y aller avec notre fameuse section que j'ai baptisée « Savais-tu, Phil? » Pour ceux qui se joignent à nous, eh bien la section « Savais-tu, Phil? » J'ai tout simplement été chercher des anecdotes derrière coulisses et de tournage par rapport à ce film-là, Captain America The First Avenger, et j'ai envie de vous les partager, puis ça va vous donner un petit regard de l'autre côté du rideau. Es-tu prêt?
Oui, oui, vas-y.
« Savais-tu, Phil, que... » Captain America est déjà le sixième personnage tiré d'une bande dessinée que Chris Evans interprète au cinéma. Les autres sont tirés des adaptations au cinéma des BD des Fantastic Four, The Loser, Push, Teenage Mutant Ninja Turtles, Scott Pilgrim vs. The World et le transpersonnage.
C'est sinon, je savais, j'en savais deux dans le fond. Le transpersonnage, évidemment, parce que c'est mon Juno Bong. Félicitations pour ta palme d'or, d'ailleurs. Puis, évidemment, je l'avais vu dans les Fantastic Four, mais le reste, non, je n'avais aucune idée là-dessus.
Savais-tu, Phil, que pour concevoir la personnalité du Crâne Rouge, Hugo Weaving s'est très fortement inspiré de l'attitude et du maniérisme du réalisateur Werner Herzog et de l'acteur autrichien Klaus Maria Brandauer. Connais-tu Klaus Maria Brandauer?
Oh, je connais Klaus.
Coucou, ça.
Oui, ben, je vois le lien. Je vois le lien, vraiment.
Un sacré coucou, ce gars-là. Oui. Il jouait un méchant de James Bond dans ce film non officiel Never Say Never avec Sean Connery dans ce remake de Thunderball. Il fait un méchant complètement sauté. Merveilleux, Klaus Maria Brandauer. Savais-tu, Phil, que Stanley Tucci a accepté le rôle du Dr. Erskine parce que ça lui permettait de jouer avec un accent allemand, une chose qu'il a longtemps souhaité faire dans un film. Savais-tu, Phil, que Chris Evans a refusé 3 fois le rôle de Captain America de peur que la popularité qui vient avec affecte sa vie privée? C'est Robert Downey Jr. qui est personnellement allé le rencontrer pour le convaincre en lui expliquant que ce choix de carrière serait bénéfique pour l'obtention de tous les futurs rôles qu'il souhaiterait avoir pendant le reste de sa carrière. Le réalisateur Joe Johnston s'est ensuite occupé de fournir les derniers arguments pour qu'Evans accepte finalement le rôle.
Ben merci Robert Downey Jr.
Savais-tu, Phil, que dans la première version du scénario, les barons Zemo et Von Strucker apparaissaient aux côtés du Crâne Rouge en tant que ses hommes de main. Ultimement, ils ont été retirés de la version finale de l'histoire de peur que le potentiel de ces deux personnages importants soit gaspillé dans des rôles si secondaires. Au final, le baron Von Strucker est apparu brièvement dans Captain America Winter Soldier et Avenger Age of Ultron. Quant à lui, le baron Zemo a été le vilain principal dans Captain America Civil War. Savais-tu, Phil, que les 3 officiers allemands sur lesquels le Crâne Rouge teste la puissance de feu d'une arme alimentée par le Tesseract sont nommés Roder, Uther et Schneider, en hommage aux 3 membres du groupe de musique Kraftwerk?
Non, ça, je savais pas celle-là.
Très amusant.
Oui.
Et pour finir, savais-tu, Phil, que on peut voir une très brève apparition du corps congelé de Captain America et de son bouclier dans une scène d'ouverture alternative supprimée du film The Incredible Hulk en 2008. Cette scène est disponible dans les extras de la version Blu-ray ainsi que sur YouTube.
Celle-là, je l'avais entendue, mais je l'avais pas vue.
Alors Phil, ben on a terminé pour aujourd'hui. Je te remercie énormément d'avoir pris part à la discussion. Merci d'avoir amené l'idée de me faire revisiter ce film-là pour y voir des qualités que j'avais pas vues en 2011 à l'époque et pour mieux me faire comprendre le portrait global de toute cette fameuse saga de la guerre de l'infini et tout ça.
Ben écoute, ça me fait plaisir. J'aime tellement ça, parler de ça, puis j'ai rarement l'occasion de pouvoir vraiment m'exprimer sur cette passion qui les films Marvel puis les BD de Marvel, passion qui depuis mon plus jeune âge puis maintenant, écoute, avec les films, des nouvelles générations de jeunes vont découvrir ça d'une autre façon. C'est toujours plus facile, veux pas, avec les films et que la technologie qu'on a aujourd'hui, que j'ai tellement hâte à la suite des choses. Je sais pas si tu partages mon engouement pour ce qui va arriver avec la suite de Marvel.
Ah mais... oui, je vais être un spectateur attentif et mon derrière ben va être sur une chaise aussi pour le découvrir parce que c'est rendu un, comment dire, mon petit soap opera personnel, mon petit téléroman. Alors, quand il n'y a pas de lancer compte à la télé, ben c'est remplacé par les Marvel, tout simplement.
Excellent.
Alors, à mon nom personnel, Sébastien Bourget, je suis en compagnie de Philippe Derry. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On va se retrouver au mois de septembre après mes petites vacances. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Sans commentaires ou presque. C'est le temps des vacances.